majeur, si mineur.
Catherine, la musique.
La majeur, si mineur. La majeur, si mineur. La majeur, si mineur. La majeur, si mineur. Do dièse mineur. Ré majeur 7. Ré dièse mineur. Si majeur 7. La majeur.
Chanson Yoko Kanno en algorithmique, donc le matin ça me réveille, ça me donne l'heure et ça me donne la météo, je trouve ça sympa. Voilà, c'était pour vous la faire profiter. On peut pas donner le nom de l'application puisque c'est une publicité en fait.
Ah
ouais, ouais.
Quand tu veux.
Good morning, it's 11:59 a.m. on Saturday. The day is...
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 17 août 2013, nos programmes pour cet après-midi à 13h30 du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Jano Dead et à 17h FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici l'interview des hommes riches, célèbres et misogynes que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end...
Alors le principal, c'est le film bien sûr. L'apparition, bon vous n'êtes pas sans savoir vu le battage médiatique qu'il y a eu dessus, ça parle dans les cours de récré, si vous avez des gamins, vous êtes forcément au courant, c'est les sabres laser pocket.
Ah.
Et oui, car il s'agit d'armes laser toujours, mais de la taille de couteau. Alors l'invention, c'est que ça
le
peut...
beurre.
Ouais, ouais, le couteau, le beurre coupé au couteau laser, c'est super. Mais de la taille de couteau, alors l'invention, c'est que ça peut faire aussi couteau suisse. Donc ça revêt évidemment plusieurs formes, donc plusieurs objets à collectionner.
Hey, ah ouais.
Quand je vous disais qu'il était en forme, Georges Lucas.
Radio FMR présente le supplément Weekend, le magazine des cultures geek en modulation de fréquence analogique. Avec dans cet épisode du sport, Ultimatum, Morgan et Dash Critch.
Et c'est toujours pas le générique définitif, le supplément week-end numéro 358. Et oui, j'aurais fait le combo dans l'émission d'avant si j'avais utilisé le générique de Magnum. Forcément, mais Magnum, c'est le vrai nom de la série, c'est pas en rapport avec le flingue, c'est Magnum PI pour détective privé. Mais du sport sauve l'honneur avec une superbe chemise que ceux qui ne payaient pas la redevance couleur, heureusement, ne peuvent pas profiter.
Mais il a pas
et avec la casquette de Magnum.
Et... Ouais.
Ah ouais, on n'a pas fait exprès.
Celle de effectivement l'équipe de baseball, magnifique.
Moi, j'ai devoir faire la photo là.
Des Detroit Tigers.
Donc, ça n'est toujours pas le générique définitif pour la prochaine saison du supplément week-end. Promis, c'est quelque chose d'un peu plus, je sais pas, plus funky, plus, je sais pas comment le dire, mais
plus classe.
Ouais. Et puis là, va falloir la garde-robe avec, mais quelque chose de, on vous promet de, franchement, pétard. Malheureusement, on l'annonce dans le programme, mais Morgan n'est pas là. Ce qui veut dire que cette espèce d'enfoiré, quand même, il tenait à être dans le générique, puisqu'il me le prévient même pas 30 minutes avant. Ce qui tombe, finalement, qu'il soit pas là, c'est pas un mal. Parce qu'on a un programme de fou furieux. On a un vrai misogyne, un vrai.
Du spécial cinéma aujourd'hui, en fait.
Oui, c'est vrai, parce qu'on a trois méga-productions qu'on va chroniquer. Et on va interviewer le chronique, le critique, le descend, le massacre.
Spoil.
Je sais pas comment le dire. Bref, on va interviewer. C'est vraiment une exclusivité. On est allé le voir dans une île, enfin sur son lieu de villégiature, alors qu'il ressortait quand même d'une tentative d'attentat. On a rencontré Audio Connard, qui est l'un des blogs les plus hilarants que l'on connaisse là-dessus.
Oui,
alors pour le lire, il vous faut un sacré.
Faut un emploi du temps libre.
Le terme est faible.
Sinon, on a, comme je l'ai noté, on a aussi un livre inspiré d'univers cinéma. On a des bandes dessinées inspirées, pas de films, mais de séries aussi, puisque voilà, c'était l'image en mouvement. Et donc, on l'a dit, on a trois gros films aussi. Donc oui, on a du programme, on a du lourd, on n'a pas chômé pour préparer cette émission.
Du lourd et du tatoué. Vous nous écoutez sur Radio FMR, Radio Alternative, ce qui veut dire que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc hier soir, entre 16h et 19h, si vous avez écouté, ça coupait toutes les 2 minutes. C'est parce que l'antenne est en surchauffe. Heureusement, vous pouvez nous écouter en streaming. Vous allez sur www.radio-fmr.net et vous écoutez en continu. Donc là, pas de problème de surchauffe avec l'émetteur qui pète un câble. On n'est pas la seule radio impactée.
Sauf si votre ordinateur est en surchauffe.
Bon, là, c'est de la mauvaise volonté.
Je tiens à signaler qu'il n'y a pas que FMR qui est impacté, puisqu'il y a Radio Occitanie, Radio Campus, Canal Sud, tout le monde en ce moment. Souffre vraiment de ce côté-là sur notre émetteur. Petit problème de clim, qu'est-ce que vous voulez. Et accessoirement, vous pouvez nous écouter évidemment en différé sur le podcast. Et l'intro que vous avez entendu, c'était un extrait de la 300e. C'était donc un gag que Thomas avait fait, où il avait imaginé les prochains Star Wars. Espérons que c'est pas ça qui va arriver. En tout cas, c'était donc le 12 janvier 2012 déjà.
Ah ouais, ça passe vite, tu te rends compte?
Eh ouais, on va faire notre 10e saison, les gars.
Alors moi j'ai compté, t'es sûr? Parce que là j'ai l'impression que c'est la 9e année qui va commencer, non? Parce qu'on a commencé, c'était octobre 2004.
10e.
Attends, octobre 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cette année, 13. Et en 4... Ah oui, bah c'est 2004. Oui, mais non, c'est à la rentrée 2014 que ça fera 10 ans.
Ça fera 10 ans, oui, mais en attendant, c'est la 10e. Tu fais pas la 0e saison.
Ouais, mais là, on fait
la 0e saison, c'était brouillon de culture, mais je veux plus entendre parler.
Oui, mais là, c'est la 9e rentrée que nous faisons.
Bref, tout ça pour vous dire, c'est juste plein week-end et c'est le bordel, là, comme d'hab. Et c'est un plaisir de vous avoir. Rapidement, du côté des news, il fait chaud.
Voilà, c'était les news.
C'était tout ce qu'on avait à dire. Nous sommes allés donc dans des endroits où il fait encore plus chaud, où il fait encore plus moite. Nous sommes allés donc sur une île qui est...
Que
nous ne mentionnerons pas. Qui, comme par hasard, est aussi un paradis fiscal.
Logique.
Il faut savoir que Audio Connard a été banquier d'affaires. Et avant ça, il était fondateur de start-up à succès. Et c'est pour ça qu'il a décidé d'envoyer chier tout le monde et de spoiler les méga-productions à plus de 100 millions de dollars. Rien que pour dire, c'est mal fait les gars, on efface tout, on recommence. Pourvu que les gens n'aillent pas le voir. Donc il explique tout le film de A à Z. Ça fait des articles qui sont très conséquents sur son blog.
Conséquents, qui sont précis puisqu'il décrit les films dans l'ordre des plans, etc. Il a toujours la recherche du bon mot pour décrire de façon décalée les incohérences nombreuses et multiples qu'il voit à l'écran. Et puis c'est vrai que si tu as vu le film, si tu l'as pas aimé, ça te conforte et que t'es mort de rire. Et par contre, si tu as aimé le film et qu'il se fait démonter sous tes yeux, tu reconnais quand même que c'est une bonne plume et tu ris quand même, tu es mort de rire même si t'as aimé le film. Donc ça, c'est la prouesse de l'Audio Connard qui est pas négligeable. Et puis c'est vrai que si vous êtes fan de cinéma et puis même si vous avez pas vu les films, c'est vrai qu'on se poile beaucoup parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il faut avoir une grosseur devant soi pour finir l'article et le lire comme il faut. Hein. En plus, il a une choix d'iconographie sur lequel il apporte aussi un second degré avec ses légendes écrites en dessous des photos. Donc ça y va.
Ça y va hardcore des fois. Donc, tout cela pour dire, ça fait plus de 2 ans hein, qu'il tourne. Nous, on l'a découvert, je vais dire, un peu par hasard, bien évidemment.
Oui,
hein,
par c'est des liens d'autres blogueurs.
Voilà, donc il n'y a pas vraiment de hasard, finalement. Non, c'est aussi par d'autres blogueurs, effectivement, qu'on l'a découvert. Et de ce côté-là, ben... je suis en train de chercher de la programmation musicale, voilà, ça m'apprendra en même temps. C'est vraiment un grand plaisir à lire et vous allez découvrir que c'est un personnage avec, et qu'on a vraiment plaisir aussi à détester. Un odieux connard donc rencontré courant de cette semaine, donc sur quelque part.
Son île.
C'est sur une île des Bahamas avec un nom en point de lettres dans un bar chic en retrait de la plage où le prix d'un demi-pression vaut bien celui du billet avion aller pour s'y rendre que nous avons la chance d'interviewer.
On peut vous appeler connard ?
C'est tout à fait possible.
Eh bien, si vous pouvez raconter les débuts de votre blog, comment tout a commencé ?
C'est un vaste sujet. On va dire que pour commencer, c'est juste que, comme beaucoup de gens, on a beaucoup de conneries à raconter. Bon, alors le faire au départ dans des bars avec des potes, c'est rigolo. Puis un jour, comme on a un gros ego, on décide de dire « Allez, mes conneries, je vais les écrire ». Au départ, ça a commencé comme un exercice de style. C'est-à-dire, voilà, je vais voir mes conneries, je m'en fous s'il y a des gens qui lisent ou pas. Puis, pas de bol, il y a des gens qui sont venus lire. Donc, ça encourage à écrire d'autres conneries. Puis, de fil en aiguille, on se retrouve avec un blog non seulement rempli de conneries, mais de gens qui aiment les conneries. Ce qui explique pourquoi, je me retrouve avec vous.
Avant la naissance de votre blog, je suis sûr que vous faisiez déjà partie des gens qui spoilaient la fin de Usual Suspect et de Sixième Sens.
Alors non, parce que paradoxalement, je n'aime pas les gens qui spoilent. J'ai des amis qui ont pour don de dire « Mais tu l'as vu tel film ?» Alors tu fais « Attends, je suis en train d'y réfléchir. Mais si, tu sais, celui avec la fin où le mec meurt !» Ah, non, je l'ai pas vu en fait. Donc, après leur avoir cordialement pété la gueule, moi je mets des règles. C'est écrit en gros et au début « Je vais spoiler, je vais vous raconter pourquoi le film ne tient pas debout et on se fout de votre gueule assez allègrement, mais je ne spoil pas le pauvre Kidam dans la rue. J'ai envie qu'il ne sache pas ce qu'il se passe à la fin de Sixième Sens, même si... Pour indice, vous pouvez trouver la fin dès la scène de l'enterrement. Clin d'œil.
Alors, où est le plaisir de spoiler des daubes ? Est-ce que vous avez une déontologie ? Est-ce que vous arrêtez à un niveau de caca précis ?
Alors la scatophilie c'est sans limite et ça tombe bien, Hollywood n'en connaît pas. Donc l'avantage c'est que des merdes, vous pouvez tenter de résister, vous pouvez vous dire merde je vais me faire une raison, puis là il y a toujours quelqu'un qui vous dit putain il y a un nouveau Nicolas Cage. Vous êtes là, non, ce soir je dois travailler. On vous dit mais regarde en plus il joue un templier. Alors vous résistez pas, vous vous retrouvez dans la salle de cinéma et vous êtes vraiment là avec votre popcorn dans les mains, dire je me sens sale. Et voilà, vous laissez aller, après vous allez sous la douche pleurer parce que vous avez honte d'avoir regardé encore un film de Nicolas Cage. Donc non, il n'y a pas de mesure du caca, à part une unité qu'on pourrait appeler le Prometheus. Mais cette unité de mesure est trop peu utilisée de nos jours par les journalistes de Télérama. Donc voilà, moi je vais dire j'aime aller voir du caca par simple plaisir pervers.
Alors moi, il y a une chose que j'ai bien remarqué en consultant votre blog, que je lis précieusement, hein, pendant que je conduis tous les matins, chaque fois que vous publiez, vous ne tapez pas sur le film français. C'est bien d'être patriote.
C'est juste que c'est chiant. Voilà, un film français, c'est... Bon, alors, je passe les passages sur l'onanisme, du genre, oui, c'est mon film parle de l'amour et des difficultés qu'on a à partir de la crise de la quarantaine, qui est quand même un peu le thème de, allez, 50%. Quant aux comédies françaises, l'humour repose principalement sur le passage où tout le monde hurle, qui est dans la bande-annonce du film, rassurez-vous, et le passage où il y a un gros quiproquo et où donc tout le monde hurle. Donc, de manière générale, je ne vais pas voir de film français parce que je n'ai pas d'intérêt pour. Voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'explosion dedans, hein. C'est juste que ça me fait chier, disons-le clairement.
Des films de Besson, c'est facile.
Là, c'est pas vraiment du film français, c'est du film français américain. Voilà, c'est un peu comme les mecs qui ont voulu faire un film américain français, à savoir Drive. On avait dit, voilà, je prends des dialogues chiants, voire pas de dialogue, et puis je fais un film où il se passe rien. Et effectivement, c'est un film américain français. Besson fait dans l'autre sens, mais bon, je crois que un certain Mosinor a fait bien mieux que moi pour résumer Luc Besson avec son générateur de scénario. Donc on ne va pas, voilà, on ne va pas critiquer quelqu'un qui a déjà fait le summum dans le domaine. C'est parfait.
Dis au Dieu, je peux te tutoyer ?
Je pourrais te dire non. Moi je peux te tutoyer, mais c'est juste parce que je suis au-dessus de toi, petite merde.
Ma bande annonce. Tu l'aimes ? Ma bande annonce. Et mon casting. Tu l'aimes mon casting ? Et mon plan promo ? Tu l'aimes mon plan promo ?
Dis-moi qui est dans ton casting, je te dirai qui tu es.
Ah, t'as vu, t'as flingué ton gag.
Ouais, mais je le ressortirai de toute façon.
Est-ce que ça vous arrive encore de juste vous poser pour regarder un film, sans penser aux vannes, juste comme ça là.
Oui, et en fait, il faut savoir que quand je suis devant un film, je pense pas aux vannes. Hein. Je suis vraiment devant le film. Je pense que j'ai un œil à moitié éteint et l'autre qui suit vaguement ce qui se passe avec les lunettes 3D loin de moi. Et en général, voilà, je laisse couler. Et puis c'est à la fin du film que je me dis putain, c'était un chier. Mais je ne cherche pas pendant le film. Je suis concentré à tenter de comprendre mais pourquoi ce personnage essaie de défoncer cette porte dont il a la clé. Donc voilà, j'essaie de comprendre, pas de faire marrer. Non, parce que sinon, on se fait chier. Hein. Faudrait que je prenne des notes et tout, et pff, c'est plus la même. Hein.
Pacific Rim, 8100 mots. Wolverine, 8995. Star Trek, 9000. Man of Steel, 10500 mots. Soit pour chaque article, à peu près 200 fois plus qu'un bouquin moyen de Nabila. Alors pourquoi des billets aussi longs? Est-ce que c'est un pari stupide? Est-ce que vous y amusez aussi à y placer des mots désuets pour les faire survivre?
J'utilise des mots désuets de manière régulière. Je ne dirais pas dans quelles circonstances on a déjà pu me dire. C'est un peu désuet comme mot, mais il y en a eu des très variés. Toujours est-il que... Voilà, ah, ça vous intéresse. Hein. Toujours est-il que... Non, c'est simplement vraiment je me fais plaisir. Hein. Je m'arrête quand j'en ai envie. Et d'ailleurs, même j'ai des choses souvent que je suis obligé de passer pour aller plus vite, parce qu'à un moment, je suis comme tout le monde, j'en ai marre. Sur Pacific Rim, par exemple, il y a le fait que les avions passent leur temps à voler en ligne droite à hauteur de monstre pour s'écraser dedans, sans tirer de missile, on sait pas pourquoi. Genre le mec, il se dit bon écoute Michel, alors on va voler bas. Et bon bah d'accord. Et au bout d'un moment on dit bon ça j'en parle même pas, parce que sinon je suis reparti pour trois paragraphes en disant au fait les avions. Bon, donc voilà, dites-vous qu'en fait j'essaie de faire court. On va dire que je suis pas très synthétique.
Le film est mauvais, mais les mots ne viennent pas. Est-ce que ça arrive souvent?
Non. Non, parce que, si vous voulez, n'oubliez jamais, le caca, ça rend les choses fertiles. Et donc effectivement, des fois on sort du film, on se dit bon bah c'était mauvais, mais je vois pas trop ce qu'il y a à dire. Puis en fait, ça suffit d'en parler deux minutes avec quelqu'un, on fait putain, il y a des millions de choses à dire. Et là, c'est parti, et puis voilà. Rien qu'à raconter le film, en fait, on est en train d'écrire, puis on se dit putain, j'ai encore oublié un truc, il y avait encore un truc de merde dedans, et c'est reparti. Donc, non, il n'y a pas vraiment. En général, le matériau est toujours bon et fumant, donc je n'ai pas à me plaindre.
Et dans ce cas-là, de toute façon, hein, comme Michael Bay, hein, un pétard et ça repart.
Complètement, complètement, une explosion et tout. Ou alors on met Bruce Willis dedans. En ce moment Bruce Willis est très bien comme rebondissement. C'est au fait il y a Bruce Willis dans mon film. D'accord, c'est bien.
Oui, il demande un million de plus. Oh bah finalement on va mettre à la place Harrison Ford.
C'est un peu les soldes sur Harrison Ford en ce moment. Donc ouais. Moi je suis en train d'y penser. J'ai pris contact avec Harrison Ford. Je voulais mettre Nabila moi aussi effectivement. Mais voilà, il a dit qu'il était moins cher donc je...
Enfin Sly qui s'extasie sur Twitter de remplacer Bruce Willis par Harrison Ford. C'était quand même un grand moment. Dans les affiches, souvent, on met des superlatifs, des extraits d'articles de presse, genre extraordinaire, Le Monde, extrait de la phrase, un ratage extraordinaire. Alors, est-ce que vous seriez prêt à vous laisser tenter dans ce genre de partenariat un petit peu coupable?
Avec des journaux, simplement pour faire des critiques?
Non, dans les affiches, avec le distributeur.
Ah mais ils peuvent déjà, si vous dites tout à l'heure c'était, écoutez il y a 9500 mots, dedans vous pouvez trouver incroyablement, merveilleux, titanesque, alors c'est suivi de titanesque merde, merveilleuse incohérence et autres, donc déjà ils peuvent très bien se servir, ils peuvent mettre un odieux connard en dessous, moi ça me pose pas de problème. Maintenant ce qui est bien c'est qu'ils ont des mecs qui sont payés pour aller faire une critique et qui, je sais pas quel film ils ont regardé mais ils loupent tout, ça les dérange pas. Tiens au fait ce personnage il est mort deux fois, oh vous savez, ah tel réalisateur il s'est planté sur le jour nuit, oh c'est pas grave, bon je rappelle que dans les années 70, hein, les pires réalisateurs étaient jugés à ça et avaient même des prix. Si on savait pas faire le jour-nuit, on disait putain, c'est quand même la base. Aujourd'hui, vous avez Christopher Nolan qui fait des séries où Batman, dès qu'il apparaît, il fait nuit. C'est pas parce qu'il fait nuit qu'il apparaît, c'est parce qu'il apparaît qu'il fait nuit. Et ben ça dérange personne et les journalistes sont très contents. Écoutez, très bien.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, juste pour le fun et pour l'amour du bon mot, de flinguer un film que vous aviez vous-même adoré?
Adoré, non. Il y a des films que j'ai appréciés, hein, un plaisir coupable. Pareil, je suis allé pleurer sous ma douche après la refaire, me sentant sale d'avoir aimé un film. On ne dira pas lesquels. C'est un des jeux des lecteurs de chercher un peu. Celui-là, je suis sûr qu'il l'a aimé. Et souvent, il se plante. Vraiment, des films que j'ai trouvé à chier, ils font non, celui-là, ça se sent qu'il l'a aimé. Donc, non. Mais oui. Et dans ce cas, je descends le film quand même. Parce que je suis comme tout le monde. Hein. Des fois, on se laisse entraîner, puis après, on dit mais ça tenait pas debout. Et effectivement, ça tient pas debout.
Est-ce que des fois, dans les commentaires de votre blog, vous êtes pris des messages haineux qui, visiblement, ça vient de l'attaché de presse, voire du distributeur du film lui-même?
Alors non, parce que eux ils auront un discours intelligent. Mes commentaires, je tiens à le dire, à saluer d'éventuels commentateurs. Les gens vous voient et en général, déjà, ce qui est rare sur Internet, et souvent, voilà, écrivent bien, font des trucs, c'est chouette. Je lis tous mes commentaires, mais de temps à autre, et c'est souvent sur les vieux articles. Alors c'est très dommage pour le lectorat qui n'en profite pas. J'ai des mecs qui arrivent pour poster et qui insultent à tout va. Alors, je laisse, Des fois, on leur répond. Et j'ai des commentateurs très doués qui sont de véritables bergers à trolls. Donc, quand ils en voient un, ils l'emmènent, puis ils le noient. Donc, c'est chic. Mais c'est vraiment, c'est plus des fans. Sur Pacific Rim, vous en avez qui sont là, genre, non, c'est complètement cohérent. D'accord, pourquoi? Mais parce que c'est cohérent. Et puis, en plus, c'est complètement Évangélion. Quel rapport.
Et il le fait super bien, Bruce. Je suis sûr qu'il a des commentaires de lui le mardi à 11h50, juste avant qu'il fasse son émission.
Ah, ça je ne sais pas, mais effectivement, s'il y a des gens qui veulent venir s'amuser, très bien. Moi je les lis et je laisse les autres s'en occuper, c'est mon côté feignant et puis pédant surtout.
Alors vous avez aussi un vrai boulot à côté, vous avez écrit dans votre blog que vous passiez entre 6 et 8 heures pour certains billets. Est-ce que vous pensez sincèrement que vous optimisez votre temps de repos?
Qui vous l'a dit que je faisais sur mon temps de repos? Il arrive que je... C'est la magie d'être patron. Il arrive que je dise à mes humbles employés, bah écoutez les mecs, aujourd'hui vous avez travaillé là-dessus. Moi, j'ai des choses à faire. Alors quand ils passent derrière moi, ils font oh non, vous faites encore un wall of text. Et effectivement, je fais un wall of text et je tape mon truc. Mais sinon, oui, ça me prend des soirées, ça me prend beaucoup de temps. Donc être régulier, c'est compliqué. Mais compter 6 à 8 heures, c'est à l'époque où j'ai écrit la FAQ. Aujourd'hui, vu la longueur des merdes, parce que ça varie avec la longueur du film, compter que c'est plus 10 heures quand même. Hein.
D'où l'usage du champagne pour emballer les poufs et du GHB pour baiser plus vite.
Non, ça c'est une légende parce que j'ai pas besoin de ça en fait.
Quand on vous demande un conseil de regardure, est-ce que vous en profitez pour vous venger et faire perdre 2h15 et 12,50€?
Non, parce que ma cruauté connaît des limites. C'est-à-dire, je vais quand même pas dire à quelqu'un d'aller voir Twilight. Si c'est pour que la personne convulse au bout d'une heure et demie, à force d'entendre des bruits de succion et de voir un vampire qui brille au soleil, mais en fait il y a du soleil, mais ça brille pas parce qu'on a oublié. Bref, non, j'épargne les gens. Par contre, quand quelqu'un me demande de la merde, là je lui sors une liste de 500 titres et je lui dis mais allez-y, commencez par Prometheus.
Et dans le genre confraternel amateur de merde, est-ce que vous avez contact avec par exemple Nanarland ou Télérama?
Alors, j'ai pas de contact direct, hein. Je connais Nanarland, mais je crois pas qu'on tape vraiment sur les mêmes films. Ils font vraiment le vieux nanar, voilà. Télérama, par contre, j'aime beaucoup leur côté très onaniste, où en fait, une fois qu'on a vu le réalisateur, c'est bon, on a vu la critique. Ah, mais attendez, il est iranien, il est persécuté, voilà. Donc, non, c'est pas vraiment des gens qui m'intéressent, et puis leurs critiques sont basées parfois sur du pas grand chose, donc je me reste éloigné de ce genre de littérature, on va dire. Si on peut appeler ça de la littérature, c'est juste pour utiliser un mot désuet, comme vous dites.
Est-ce que une partie de vos lecteurs ne vous lisent pas pour radiner sur le prix d'une place premium, plus option lunettes 3D, plus option popcorn, plus option coca, mais qui en fait est du coca light?
Oui, moi aussi j'ai vu cette pub et je le vis assez mal. Hein. Parce que moi tout ce que j'attends c'est un nana qui dit mais attendez, j'ai demandé du vrai coca, qui sort, qui pète la gueule au mec contre le comptoir, bref, tu vois, un vrai truc. Non, en fait il y a deux camps, il y a deux écoles, il y a ceux qui disent grâce à vous j'ai économisé 8,50€ pour les ceux qui habitent dans des endroits encore isolés, hein, où Paris n'a pas fait son trou. Et j'ai ceux qui me disent bah maintenant que ça a l'air si à chier, j'ai envie de le voir. Et je sais que je convertis des gens à cette espèce de scatophilie cinématographique. Donc non, je pense que les places économisées sont vite compensées par des gens qui disent ah c'était aussi à chier que vous le disiez. Et bien voilà. À votre service.
Alors juste avant la question qui vient, alors un éternel débat sur faut-il casser les films, faut-il pas les casser, beaucoup pensent qu'il faut beaucoup plus de courage pour aimer des films plutôt que pour les casser. Est-ce que, bon, on sait que vous avez cassé beaucoup de films qui ont eu un succès critique, un succès public, etc. Est-ce que vous aimez au contraire des films qui se sont fait casser partout?
Films qui se sont fait casser partout. Écoutez, là tout de suite, j'en ai pas en tête. Alors, je fais partie des gens qui sont amateurs de Sacré Graal, hein, donc j'ai déjà vu des gens me dire mais ça me fait pas marrer, mais c'est nul à chier, mais de là à dire qu'il est cassé partout, non, ça serait très prétentieux. Donc, non, surtout en fait, il faut pas croire que je vois tant de films que ça. C'est paradoxe, tout le monde dit vous devez voir des milliers de films. Ben non, parce que justement je bosse, hein, merde, bande de fainéants. Donc non, là j'ai pas de nom en tête. Question ratée, les gars.
Alors, petite prédiction, bientôt on va relancer donc la saga sur les Star Wars. Dans le Star Wars 7 Kids, il y a les fameux sabres laser de couleur. On commence déjà à voir la ligne de jouets. C'est quand même magnifique, quand même, que les créateurs de produits dérivés dictent comme ça le scénario.
Bah, honnêtement, alors soyons clairs, je sais qu'il y a eu une grosse truc, une grande critique, genre « Ah mais attendez, Star Wars, il passe chez Disney, ah non, ça va être nul et tout. » Mais c'était nul, les gars. Vous avez vu George Lucas sur les trois derniers volumes? Vous voulez qu'on reparle de Anakin qui dit « Je viens t'arrêter. Attends, non, en fait, t'es mon meilleur pote. Puis tiens, je vais aller tuer des enfants. » C'est bon, allez. Donc, si vous voulez, la merde, elle a été faite. Donc honnêtement, moi je suis plutôt confiant, parce que quand on donne la chance à quelqu'un d'autre de tenter sa chance, bah peut-être qu'on aura une chance de se débarrasser de Jar Jar Binks pour commencer. Donc ouais, au moins ils tentent quelque chose. Peut-être que ce sera à chier, mais ce sera toujours mieux que George Lucas. Je suis désolé pour les puristes, mais c'est pas parce qu'on a travaillé sur les premiers qu'on a pas fait de la merde sur la suite. Voilà.
Et t'es vachement plus... Alors, ouais, parce qu'on passe du vous et du dessus. T'es vachement plus piquant sur Prometheus. S'attaquer à George Lucas, à Jar Jar Binks ou à Twilight, tu baisses là, un peu.
Mais c'est parce que c'est les classiques qui sont donnés. Et maintenant sur Prometheus, ah non mais Prometheus c'est génial. Regardez les derniers films de Ridley Scott, c'est tous des merdes, il y a pas d'autre mot. Et là Ridley Scott, je vous rappelle qu'il y avait eu le ah putain, je ferais bien Gladiator 2. Bon écoute mon garçon, il est temps d'aller se coucher là maintenant. Donc je pense qu'il faut l'emmener derrière les tables et puis mettre le coup de fusil qui va bien, quoi, parce que c'est plus possible. Mais non, mais Prometheus fait partie de ces films géniaux qui sont très à la mode en ce moment, à savoir les films à trous. Je te mets pas des trucs dans le scénario, c'est n'importe quoi, et t'as des mecs qui font oh putain, c'est complètement philosophique, et qui viennent t'expliquer pourquoi, en fait, ce qui s'est passé dans les scènes qu'il n'y a pas dans le film. Et voilà, moi c'est quelque chose que j'aime, parce que du coup, je fais ma critique, je fais mon truc, et il y a des gens qui arrivent et qui rajoutent une espèce de saupoudrage de caca par-dessus, c'est vraiment royal. Donc, non, écoutez, moi je fais avec ce que j'ai sous la main, les Twilight sont finis, je suis assez triste, hein, ça me manque un peu. Heureusement, ils sont encore en train de sortir tout un tas de merde, donc je n'ai pas à m'ennuyer.
Dis-moi, maître connard, les filles que vous jetez, les 06, vous les gardez de côté, vous pouvez me les passer
Bah écoutez, je peux vous les passer, mais ça risque de sonner sous terre. Hein. Alors à moins d'avoir une bonne pelle, ça va vite être compliqué. Donc moi je veux bien, mais après c'est plus un bouquin de jardinage qu'il vous faut.
D'accord. Merci beaucoup.
Bah écoutez, à votre service.
Merci monsieur connard.
Merci à vous.
Et oui, un odieux connard. Donc, vous avez compris, c'était un personnage hein, qui joue en soi principalement. C'est quelqu'un... Franchement, on a beaucoup échangé après, hein, d'une manière sérieuse sur les films et tout ça. Il est extrêmement intéressant, je vais dire, aussi bien sur sa vie personnelle, qu'on ne dévoilera pas, que sur le reste. Qui plus est, ben, il est pas... il a été très surpris, hein, en plus, qu'on lui ait proposé une interview. Et finalement, ben, on n'a pas du tout été déçus du voyage. Et j'espère que vous non plus.
Non mais c'est marrant parce que en plus quand tu te déplaces sur le lieu de l'interview avec lui, il y a des affiches de cinéma dans la rue et donc comme il y a pas mal de bouses hollywoodiennes annoncées, c'est vrai que tu vois sa réaction en direct, donc c'est assez rigolo de discuter avec lui des bouses à Nicolas Cage, avec Channing Tatum, tout ce casting qui fait vibrer, donc voilà, c'est vraiment c'est pas fin, hein, fin F-E-I-N-T dans son blog, c'est vraiment, il est comme ça dans la vie, donc c'est très...
Et en même temps, à lire, c'est vraiment un bonheur. Par c'est vrai qu'il fait une consommation de nana qui est assez hallucinante quand on lit le blog.
Ah, c'est vrai qu'on les a vus passer. C'est vrai qu'on les a vus passer pendant l'interview, il y en a beaucoup. Hein.
Et ça doit souvent sonner dans les bois. Donc, pour le coup, j'ai un morceau que j'aime bien, qui est vieux, hein, c'est DMX Crew, extrait de son premier album We Are DMX. Good Time Girl. Oh Dieu, c'est pour toi, cher connard, les paroles de cette chanson, ça va si bien. Ah non, c'est pas le bon. C'est pas le
Allez,
bon disque.
Il avait réussi son lancement.
Back to the 80s.
Eyes wide, you saw me in a magazine. You sighed, thinking of what might have been. Thinking how your love
L'album We Are DMX sorti en 99, Good Time Girl, au grand désespoir de Du Sport. Mais non, il est que 12h30 sur Radio FMR 89.1.
Ça s'est vu.
C'est le Super Weekend numéro 358.
Ah, c'est de la radio.
Et on va y aller avec les sorties de bandes dessinées, ma foi. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans nos libraires favoris qui vont rouvrir? Puisque après tout, hein, on est le 17 août, la plupart sont fermés. Ils sont encore à la jeu plat. Mais ça va être la grosse rentrée, ça va être l'apocalypse. Et justement, à propos d'apocalypse, ça tombe bien puisqu'on va parler de la bande dessinée Le Visiteur du Futur. Le top 1 s'appelle Élu des Dieux, scénario François Descraques, dessin de gauche, et c'est sorti chez Gauche. G-O-S-H, attention, dessin de gauche. Pas comme ça.
Oui, dépend.
Pas politique. Voilà. On va y arriver. C'est un clodo avec des prophéties apocalypse effrayantes, et étonnamment, il est capable de vous convaincre que le pire va arriver si vous faites ça, un truc parfaitement banal. Il apparaît là où on ne l'attend pas, n'importe où et surtout et souvent n'importe quand. Ce qui est un peu normal puisqu'il voyage à travers le temps grâce à une machine, le Tempus Fugit, qui ressemble à une grosse montre multifonction de sport. Dans son époque d'origine, c'est-à-dire dans à peu près 530 ans, la Terre a été ravagée par des guerres nucléaires, des pluies acides, des tournées de boys band, des invasions de zombies, des dérivés cicaves de subprimes et des rébellions nécrophiles. Heureusement, il a comme allié le professeur Castafold, qui ne sait toujours pas qu'il est lui-même un robot du professeur Castafold original. Eh ben non. Et à une autre époque, il intervient à tout bout de champ dans la vie du pauvre Raph, lui ruinant ses études, sa vie amoureuse, ses meilleurs amis et son espoir de glande le week-end. Bref, le visiteur du futur, il ne vit que pour sauver notre futur et il n'arrive bien souvent qu'à faire des gaffes. Alors tout cela, vous le savez peut-être, si vous avez regardé la web-série qui fut par la suite diffusée sur No Life et dont la production a été reprise par Ankama et France 4. Vous en savez même encore plus si vous avez écouté l'interview de François Descraques et de Justine Lepotier, entretien qui fut hallucinant. Excusez-moi, faute d'accord de ma part. Et je ne vous raconte pas Descraques. Non, ça c'est une blague. Oui, elle était hachée. Désolé. La signature du scénariste-réalisateur, c'est un gag très percutant en finale de chaque épisode. Après tout, les 4 premiers épisodes n'étaient censés être que des gags en standalone compostés sur Dailymotion, et c'est devenu en fait une série par la suite, parce que ça marchait très bien. Et la construction d'une histoire entière s'est faite justement que par la suite, à partir à peu près du 5e-6e épisode. Et oui, ben, il est capable d'écrire une superbe histoire dramatique sur plusieurs épisodes, ça on l'a vu après, surtout dans la deuxième saison. Mais il faut reconnaître qu'en général, on l'attend surtout à la chute. L'album BD, ben, malheureusement, et même si c'est Descraques qui en a écrit le scénario, et ben, il ne marche pas bien. L'histoire est censée se passer entre la saison 1 et la saison 2, quand le futur se reconstruit, après donc justement ben, la brigade, c'est pas sûr, enfin bon, voilà. Suite à des raisonnements particulièrement foireux as usual, Castafold et le visiteur arrivent à la conclusion qu'il leur faut le meilleur stratège du monde pour leur plan d'action à travers les siècles. Et bien évidemment, le meilleur, c'est ce grec peroxydé qui ressemble à Colin Farrell, à savoir Alexandre le Grand. Bon, bien évidemment, tout va être que sur des quiproquos. Sauf que le dessinateur a du mal avec les visages, ce qui est très désagréable, car si chaque personnage n'avait pas son accessoire, et ben... on ne les reconnaîtrait pas. Bah oui, c'est aussi simple que ça. Les textes des phylactères sont en capitale étroite et grasse, ce qui n'aide absolument pas à la lisibilité. Si vous voyez la planche, vous comprendrez exactement ce dont je veux parler. Descraques lui-même n'est pas au mieux. Le découpage de la série en épisodes courts avec une conclusion percutante lui permettait de donner un rythme entre le principe de l'histoire et le gag. Ce qui est bien le cas ici, mais qui marche beaucoup moins bien à cause du découpage pas toujours très bien maîtrisé de la planche. Une belle plaisanterie éclaterait à la fin de chaque double planche, mais ici, ben, le trait épais, la présence des bulles des textes trop importantes en font perdre totalement la dynamique et ça, malheureusement, ça s'appelle un loupé. Moi qui suis un gros fan de la série depuis le 5e épisode de la première saison, je dois dire que je suis très déçu. Mais il serait dommage de passer à côté de cette histoire sympa et finalement rigolote. Quand justement, finalement, on arrive à en faire abstraction du dessin. Et vous remarquerez d'ailleurs, dans les deuxième et troisième de couverture, un schéma synoptique des événements des deux premières saisons. Ce qui est déjà un bonus quand même, entre nous, plutôt sympa. La quatrième saison est actuellement en tour de tournage au moment où je vous lis ces lignes. Ils en sont à la 8e journée de tournage. Et à noter que Simon Astier jouait dans la 3e saison du Visiteur du Futur, ce qui est une transition rêvée pour la suite, pour l'album suivant dont je vais parler.
Bravo.
Thomas, toi tu l'as lu, toi aussi, t'as découvert du coup le Visiteur du Futur après coup.
Oui.
Et qu'est-ce que tu en as pensé?
Si tu connais pas la série, c'est assez dur de suivre. Pour les mêmes raisons que toi, c'est-à-dire que je me suis un peu emmêlé les pinceaux en voyant les deux visages qui sont assez proches du visiteur et de Raph. Je trouve que c'est vrai qu'en plus, si tu connais pas la série, si tu connais pas les personnages, des fois tu fais la confusion, tu te dis tiens, pourquoi il dit ça, etc. Entre Castafolt et le visiteur, il y a aussi pas mal de confusion graphique. Après, l'idée de prendre Alexandre le Grand, ou je crois que c'est, il y a un autre personnage assez vieux à la fin qu'on ne nommera pas pour essayer d'être le chef de leurs armées. Bon, ça c'est pas mal parce que Alexandre le Grand, des fois tu crois être un peu dans un humour à la Monty Python, mais on en est loin quand même.
Tient plus quand même la spécialité quand même de Descrac. J'ai eu l'impression que c'est plus ce théâtre boulevard. Et là-dessus, il est capable de faire des sketchs avec des portes qui claquent et à tenir toute une action dans un appart parisien.
Ouais, c'était ça, comme tu l'as dit, l'intérêt de la série, c'est que tu vois qu'ils jouent avec leur énergie, que c'est que le montage et les chutes, le côté complètement psychédélique, complètement hystérique du visiteur, il fait aussi parce qu'il c'est un petit teigneux. Bon voilà, c'est ça qui faisait le sel de la série. Puis c'est vrai qu'on ça transparaît pas dans ce premier tome. En même temps, les séries doivent toujours commencer par un premier tome qui est censé planter l'univers. Donc peut-être que ça va décoller dans le 2 et le 3, on sait pas.
En attendant, on verra le Visiteur du Futur. Le premier tome s'appelle Élu des Dieux, est édité aux éditions Ankama. Le scénario est de François Descrac et dessiné par Gauche. Là, comme ça, ça marche mieux. Et donc, je disais donc que Simon Astier jouait dans la 3e saison, mais Simon Astier a sa propre série qui s'appelle Hérocorp et qui, elle aussi, est adaptée en bande dessinée. Simon Astier au scénario, dessiné par Marco Faya. C'est le premier tome s'appelle Les Origines, est sorti dans la collection US Comics renommée French Comics, donc aux éditions Soleil. Et Hérocorp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'une union de super-héros basée au Canada. MC Gilles, si tu les écoutes. Hélas, en vieillissant, ces héros perdent leur stamina, n'ont plus ni la carrure, ni la puissance de leur pouvoir. Et ils ont donc émigré dans un village au fin fond du Vercors. Jusqu'à ce que John, le fils de l'un d'entre eux, s'y retrouve totalement, par hasard, enfin du moins, on le suppose, et il va découvrir ses incroyables pouvoirs qu'il a hérités, et va donner une nouvelle jeunesse à ses héros.
John, c'est Simon Astier ?
Ouais.
Ah, je connais un peu mal la série, je crois que j'avais vu une partie de la saison 1, mais c'est tout.
Et héros, je l'ai pas écrit de la même manière, mais ça marche pas en radio.
Et son pouvoir, c'est quoi alors ?
En fait, le destin de John a été tracé depuis bien des années et ça lui a été caché pour sa propre sécurité, bien évidemment celle des civils, vous imaginez bien. Car c'est ce qui nous est raconté dans la première saison de la série par Simon Astier et qui fut diffusée sur Comédie, puis plus tard en clair sur France 4. Dans la deuxième saison, John se retrouve au Québec sur les traces de ses origines. Alors, la voix de l'adaptation bande dessinée, prise par le créateur, scénariste, réalisateur d'Hérocorp, est bien différente par rapport à celle du Visiteur du Futur. Puisqu'on fait de la bande dessinée, on peut y aller à fond sur les effets spéciaux, ça ne coûtera pas plus cher. Donc, autant en profiter pour raconter la fondation de Hérocorp dans les années 80, quand tous les personnages avaient des pouvoirs extraordinaires, surtout au niveau puissance, ils avaient le curseur bloqué sur 11, capable de ravager toute une ville, en l'occurrence Montréal, mise en coupe réglée par un super vilain qui la détruit quartier par quartier, méthodiquement. La popularité du maire est à ce moment-là au plus bas, même dans les sondages achetés, c'est dire. Captain Québec le héros du monde libre, l'ardent défenseur de la veuve et de l'orphelin et de la poutine contre les dangers venus de l'URSS et d'ailleurs. Oui, ce capitaine Québec, celui que nous adulions tous quand il sirotant nos tangs goût orange, vient d'être mis aux arrêts. Sous les chefs d'inculpation de racket, violence, corruption, extorsion, ce qui en fait beaucoup pour le chef des super-héros et qui met complètement à zéro le moral des amateurs de justice et l'espoir de la nation, même si on doit mettre au crédit de cette spectaculaire arrestation les forces spéciales de l'armée. Thomas, toi qui trouvais que je faisais des phases un peu trop longues, celle-ci était pour toi. Les héros sont divisés, les quartiers en feu et le pouvoir est à deux doigts de basculer vers l'état d'urgence. Comble de malheur, un médaillon donnant un immense pouvoir de persuasion a été refilé à Étang, qui n'est pas franchement un enfant de cœur, ni le Étang de un Mission Impossible. Pour remplacer Captain Québec et préserver leur union, les héros nomment comme chef Captain Canada. Et là, ça va chier. Et c'est exactement ce qui va se passer dans la suite de cet album. Des complots, des retournements, de l'action, ceux qui connaissent la série s'en délectent, vraiment. On y reconnaît bien les bouilles des acteurs, hein. Attention, c'est pratiquement la même troupe que celle de Kaamelott, et c'est pas un hasard, puisque c'est une troupe familiale, hein, la famille des Astier, avec d'autres personnes qui sont pas de la famille autour, ni d'un petit village du Vercors. L'action est lisible. C'est vraiment l'énorme différence par rapport au bouquin précédent que j'ai chroniqué, empruntant autant aux comics de super-héros qu'à la bande dessinée française d'action des années 80-90. On a une excellente série d'action, un très bon prélude à la série qui peut se lire indépendamment et qui n'en est pas un simple produit dérivé. En cela, Simon Astier a réussi à faire mieux que son frère Alexandre Astier quand il a fait le premier tome de Kaamelott. Il y a un souffle épique, la bande dessinée permet d'aller bien plus loin que la série et nous avons de belles perspectives de développement qui tiennent les amateurs en haleine. De ce côté-là, franchement, gros plaisir et je me suis régalé. Simon Astier au scénario, Marco Faya au dessin. Qui veut y rajouter quelque chose ?
Non, en feuilletant, je vois que le dessin est vraiment, vraiment carré, que le dessinateur n'a pas peur des perspectives, n'a pas peur de dessiner des décors qui sont des buildings avec des vraies pleines pages de décors dans la ville.
On a l'impression qu'il éclate des fois le... Excuse-moi, je voulais pas t'éclater les tympans. On a l'impression qu'il éclate des fois un peu la planche comme dans les comics, finalement.
Ah oui, mais il reprend les codes du comics, les univers graphiques fonctionnent bien, mais c'est vrai, encore une fois, qu'on voit le dynamisme de ces cadrages, quoi. En plus, c'est de la plongée, de la contre-plongée. Il suffit pas de ça pour faire une bonne BD, bien sûr, mais là, en tout cas, on voit qu'il a des le dessinateur a des ambitions et qu'il se cache pas derrière des caches-misères. En tout cas, j'espère que le scénario est à la hauteur. Et comme tu disais, c'est vrai que c'est un mi-chemin entre la BD franco-belge pour le rendu et les trognes des personnages qui font aussi un petit peu comics. C'est vrai que Lionel Astier, là on le voit, on le reconnaît vraiment bien avec des grosses lèvres et le regard patibulaire.
C'est le papa des deux frères et c'est celui qui joue le beau-père d'Arthur dans la série Kaamelott et qui joue le patron de HeroCorp dans la série HeroCorp.
En tout cas, ça donne vraiment envie de découvrir ça. Et donc, du coup, ça, comme ça raconte la création d'HeroCorp, donc ça se passe bien avant la série, Il m'écoute plus, c'est génial.
La série se passe en 2005 et là, la bande dessinée se passe en 1985.
D'accord.
Okay. Donc, voilà. Donc,
non, de
Zeus. Ah oui. Exactement. De ce côté-là, donc, c'est assez agréable, je veux dire, à lire. Et c'est un format comics, ce qui aide un petit peu aussi, je veux dire, sur le côté pratique. Et je crois que Marco Faya, je sais pas si t'as vérifié, je ne suis absolument pas sûr, mais je crois que c'est lui qui a fait les dessins que l'on voit en interlude dès la première saison d'ailleurs, hein, puisque c'est en insert, on a vraiment cet aspect comics dans la série. À noter que ce soir France 4 diffuse l'intégralité de la saison 2 de la série, ça commence à 23h15 et ça se termine à 5h25. Joyeux café à tous. Après tout, hein, dimanche c'est férié, hein, donc je sais pas. Et moi je dirais she's just killing me. Stop. Radio FMR, le supplément week-end. Yeah. Ma foi, on commence. On avait dit trois chroniques de films à succès, méga budget, etc. Non, on a un quatrième, on a un Tarantino pour le coup. Ça fera plaisir à Méga Connard après ce qu'il a balancé sur.
C'est pas Méga Connard.
Odieux Connard après ce qu'il a balancé sur Tarantino, c'est quelque chose de.
Ouais, bah là c'est un peu du Tarantino, un peu de Rodriguez, mais surtout c'est ni l'un ni l'autre qui écrit ce bouquin, c'est anonyme. Alors là, c'était un extrait de la BO d'Une Nuit en Enfer, hein, ZZ Top.
Donc avec des mecs à couilles, hein, comme
des
dit
mecs
du sport.
À couilles, barbus,
moi, je dirais plutôt
chevelus.
Barbus, oui, chevelus.
Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui du livre, de la mort, écrit par un anonyme chez les éditions Sonatine et aujourd'hui qui sort en livre de poche du sport. Je te laisse faire le résumé.
Santa Mondega, un bled de Mirera de Nuevo Mexico, maestro des ténèbres. Ramsès Gaius, momifié pendant des siècles, est revenu d'entre les morts et a replacé l'œil de la lune dans son orbite. Los Tenebros ont envahi Santa Mondega. Pendant ce temps, J.D. a retrouvé Bess, son amour de jeunesse, qui ignore tout de sa vie véritable identité. Mais lorsque des tours à gages viennent la kidnapper, J.D. redevient la machina sanguinaire, El Bourbon Kid. Pour retrouver ses pouvoirs, il va devoir faire équipe avec Dante et Casey, les tout trop transformés en vampires. Aïe, si, et oublié, Sanchez aussi, du bar de tapioca. Il est devenu flic.
Et ouais, il a du mal à ne pas hurler de rire quand même sur la fin.
Donc voilà, donc ça c'est le quatrième volet de la trilogie du Bourbon Kid. Et oui, quatrième volet, trilogie. Donc c'est le quatrième tome, mais il faut savoir qu'il y a une préquelle dedans, il y a un livre qui se passe avant et qui fait pas partie de cette trilogie puisque c'est plutôt un épisode indépendant. La trilogie se constitue du livre sans nom en 2010, L'œil de la lune en 2011. Suivi de l'intermède, Le cimetière du diable en 2011, qui est plutôt une histoire avec les mêmes personnages, mais qui se déroule avant et qui se déroule dans un hôtel où il y a une compétition musicale de chant. Donc, on apprend aussi dans le bouquin que c'est une occasion d'un pacte avec le diable pour lui fournir du chanteur à massacrer. Mais bon, ça on le découvre à travers le bouquin. Et donc, ce quatrième tome est donc le tome qui conclut la trilogie du Bourbon Kid qui s'appelle Le Livre de la Mort. Alors, le principe de cet épisode, c'est que le Kid, justement, a renoncé à ses pouvoirs pour être avec sa nana. Mais c'est vrai que s'il y a un truc pas cool qui se passe pour eux, et Dieu sait s'il y a des trucs pas cool qui se passent à Santa Monega, comment va-t-il pouvoir se défendre maintenant qu'il a plus les pouvoirs et qu'il fait un peu plus peur à personne surtout. Et alors le truc rigolo, c'est que évidemment les troupes de Ramsès Gaius, les tueurs à gages qui avaient été envoyés pour buter le Bourbon Kid, eh ben ils s'aperçoivent que la dépouille qu'ils ont ramenée à leur maître dans le tome précédent, eh ben c'était pas le bon en fait. C'était un vampire où il y avait marqué connard sur son front. Tiens, la boucle est bouclée. Transition, tout ça.
Oh putain.
Eh oui.
Ah d'accord, je comprends maintenant pourquoi t'insistais.
Et alors, du coup, le livre repose sur ce concept. Tu te dis au moins 150 fois, parce que l'intrigue, en fait, évidemment, est fait exprès de se mettre en route lentement. Et puis, c'est vrai que comme il y a plein de tueurs qui sont envoyés pour essayer de kidnapper Bess, pour essayer de remettre la main sur le bro Monkey, parce que les gens ont appris que Bess était sa petite amie. Et alors, tu te dis 150 fois dans ta tête, oh putain, lui, il va manger bon quand il va retrouver ses pouvoirs, l'autre. Oh là 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 là. Alors, pendant toute la première moitié du film, du livre d'Absus Révélateur, donc tu te dis ça, et ensuite, bon, l'histoire part vers autre chose, comme c'est souvent le cas dans cette série-là. C'est vrai que la conclusion, donc c'est une vraie conclusion à tout ce bordel, avec chaque personnage qui trouve une fin, une conclusion qui est dans la droite lignée, on va dire, de leur comportement et tout. Mais c'est vrai que c'est très hollywoodien, là, cette conclusion de cette série, et c'est vrai que tu regretterais presque le côté un peu crade que t'avais dans les deux premiers tomes avant qu'il y ait toute cette affaire de gros sorciers avec des pouvoirs mystiques et tout. Avec les vers de pisse et tout, ça c'était vachement mieux. Et alors du coup, ce qu'il y a de rigolo dans ce tome là, c'est que parallèlement il y a Sanchez toujours qui est là, ce gros porc qui pense qu'à sa gueule et qui pense qu'à ses petits dollars. Ben en fait il s'engage chez les flics pour avoir des dollars justement, et donc il tombe amoureux il tombe sous le charme d'une serveuse d'un coffee shop complètement merdique, hein, parce que tout est merdique dans Santa Monica, faut savoir. Et donc elle lui dit ouais, ben si on s'engageait chez les flics justement, ça tombe bien, au cours du deuxième épisode il y a quasiment plus de flics dans la ville parce qu'ils ont tous été dégommés dans des conditions, on va dire, pas très 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 chirurgicales. Et donc ce serait bien qu'on grossisse les rangs des flics, comme ça nous fera une bonne paye. Donc imaginez Sanchez chez les flics, et justement ça tombe bien, sa première mission, puisqu'ils sont en rupture d'effectifs, ben en fait sa première mission ça va être de, je sais pas si tu te souviens du sport, il y avait l'ascenseur du commissariat qui avait mangé bon, puisqu'il y avait une créature qui s'était fait dégommer au fusil à pompe par on va dire la sortie de secours de l'anatomie humaine, on va dire. Et donc Sanchez, avec son balai et sa serpillière, va devoir nettoyer l'ascenseur avec des matières qui sont pas très très nobles. Voilà, je vous passe plein d'épisodes, puisqu'il va y avoir des créatures de la nuit qui vont arriver aussi dans le commissariat. Et c'est vrai que Sanchez va se retrouver avec son balai à chiottes pendant une bonne partie du bouquin à la main. Donc voilà, donc ça c'est pas mal parce que justement
le Toxic Avenger.
Comment ?
C'est le Toxic Avenger.
Voilà, et donc c'est pas mal parce que justement le romancier qui est derrière ça, il te met plein d'images dans la tête pour te justement souligner le ridicule de la situation. Voilà, donc évidemment ça fonctionne toujours autant sur les références au cinéma de genre et de série Z, de série B. Donc c'est un épisode tout à fait réjouissant dans la lignée des précédents, mais c'est vrai que l'auteur nous avait vraiment surpris avec ce cimetière du diable, avec son concours de chant dont je n'attendais rien, et finalement je me demande si ce n'est pas le meilleur épisode de la série, vraiment tant on se poile avec les références musicales de ce côté-là. Après c'est vrai que c'est efficace, ça fonctionne bien, c'est tu t'en prends plein les mirettes et que t'es pas déçu, chaque personnage en fait est poussé jusqu'au bout du concept qui était associé à ce ton et à ce type de personnage. Tu retrouves toujours les vampires, tu retrouves toujours les sévices dont t'avais fait l'objet Bess, puisqu'il va y avoir de la vengeance dans l'air également. Donc voilà, c'est une excellente conclusion à cette trilogie du Bourbon Kid, édité chez Sonatine Edition et qui est aujourd'hui disponible en poche, avec toujours l'auteur anonyme derrière tout ça. Donc le livre de la mort, quatrième épisode de cette série qui comprend également le livre sans nom, L'œil de la lune et le cimetière du diable.
Ma foi, merci. Vous écoutez Radio FMR, 12h55, et je crois que vous les attendez tous, comment on dit déjà, les séances à grand succès. Et qu'est-ce qu'on a ?
Eh bien, qu'est-ce qu'on a ? On va commencer, on a quelques films à vous parler avec du sport aujourd'hui. On va commencer par de la bonne grosse science-fiction qui est Elysium. Donc là, tu m'as mis le morceau que je t'avais donné, normalement.
Ah putain, oui.
Un jour, je pense qu'on y arrivera. Ouais. Un jour. Excusez-le.
Allez-y.
Alors Elysium, deuxième film, deuxième long métrage, puisqu'il a, le bonhomme avait fait des courts métrages, deuxième long métrage de Neil Blomkamp, réalisateur sud-africain qui nous avait estomaqué avec District 9, avec Matt Damon, Charlton Copley, obligé, Jodie Foster, Alice Braga et William Fichtner. En casting, on va dire, du costaud, on va dire.
Oui.
2154, la population sur Terre s'est appauvrie et vit dans un bidonville géant. Thématique du bidonville hein, qu'on retrouvait déjà dans District 9. De leur côté, les humains les plus aisés sont partis habiter sur la station spatiale Elysium, dont la technologie permet de rallonger la durée de vie et surtout vaincre les maladies. D'un coup un petit laser par-dessus, et pioup, hop là, au revoir le cancer. Max, ancien délinquant et voleur de voiture, travaille dans une entreprise de fabrication de droïdes à Los Angeles. Suite à un accident du travail, il est irradié. Il lui reste plus que 5 jours à vivre. Et en cherchant par tous les moyens à se rendre sur Elysium pour se guérir, forcément, bon après il est obligé de faire la queue parce qu'il y a pas mal de gens qui sont grave malades et qui veulent aller là-bas, et ben il va involontairement se retrouver au centre d'un complot qui pourrait changer le destin de l'humanité.
Mince alors.
Alors ceux qui ont vu la bande-annonce, on voit bien que le moyen qu'il a trouvé, c'est que les gens ils ont dit bon ben il te faut de la force pour aller là-bas, donc on va te foutre un exosquelette. Voilà. Donc on est chez Neil Blomkamp et on est dans des bidonvilles, donc on devine qu'on est plus chez Cronenberg que chez Chris Cunningham.
Oui.
Donc on va dire que l'opération, on te montre pas grand chose, mais on voit que ça a été à coup de scie à os, ça a été un peu crade.
Ouais.
Voilà, ça a été un peu crade.
Route.
Alors le côté déceptif de la chose, c'est que ben on voit un peu que ça a pas été très très propre au niveau du crâne, mais ils en font pas une maladie, ils épilent pas dessus, donc bon c'est au revoir Cronenberg hein, du coup hein, puisque
ouais.
Bon voilà
ouais.
Un peu le côté négatif voilà et puis à partir de là justement paradoxalement à partir du moment où il a ses pouvoirs c'est là que le film devient moins intéressant parce que justement Blomkamp est super fort pour décrire les mondes de merde. Les mondes où avec les oppressions, les gens qui vivent dans la pauvreté, au milieu des poubelles et tout, ça fonctionne super bien. Toute cette première partie, franchement, où on suit le quotidien en fait d'un ouvrier dans une ville de merde, une entreprise de merde, avec dont le directeur c'est un gars qui vient d'Elysium et qui se mélange pas du tout aux autres humains parce qu'il veut pas du tout être contaminé par les virus et tout, donc il demande aux humains qui lui parlent de mettre un mouchoir devant le nez. Alors Fichtner,
tiens, ça me rappelle la sortie de certaines églises à Toulouse.
Alors le gars qui joue ce costard cravate super propre sur lui, bon, c'est Fichtner qui est excellent hein. Tu vois vraiment sa gueule déjà, tu vois ce papier glacé, tu vois vraiment qu'il peut vraiment faire la belle crevure froide et tout.
Et encore ça passe au vu.
Ouais. Voilà. Et paradoxalement, c'est vrai qu'à partir du moment où Madamon acquiert le squelette, c'est vrai qu'on a un passage quand même qui est vraiment super efficace où on part vraiment dans le délire de nerd. Alors là, on a les navettes qui sont avec la peinture rouillée qui part un petit peu. On a les sentinelles robotisées. On a les droïdes. On a les implants métalliques et robotisés dans les cordes des jambes. Alors là tu dis bon ok, le gars c'est un geek, ça fonctionne super bien.
C'est pas comme le film avec l'autre scientologue où c'est trop propre, etc. Ça a du corps quoi.
Ah c'est pas Minority Report.
Ouais.
Oh, ça fonctionnait aussi bien dans un autre genre, mais là c'est vrai qu'on est dans le côté crade, on n'est pas dans le côté, on va dire Apple. Bon. Mais c'est vrai que là, cette track, il s'ensuit une track en fait. Et là, le gros point positif du film, c'est effectivement la ministre de la Défense qui est Jodie Foster d'Elysium qui va activer un agent dormant. Et l'agent dormant, c'est Charlton Copley. Et là, je peux te dire, mais c'est rien de le dire à la radio, mais le gars, mais il te bouffe Matt Damon au niveau charisme, au niveau à l'écran, mais c'est indescriptible. C'est le Charlton Copley, dans chaque plan qu'il apparaît, tu dis, ouais, bon, ok, l'autre il fait pas photo, Damon il donne un côté tiède. Alors, je l'ai apprécié dans plein de films, dans les Bourne, il est excellent, mais là, dans ce film-là, il fait vraiment tiédasse. C'est vraiment dommage. Et Copley, par contre, voilà, il t'atomise tout ce truc. Et puis, dans chaque réplique, voilà, il te fout les jetons. Mais il te fait un méchant pas glacé, il te fait un méchant qui est aussi qui a du corps, qui est à moitié cinglé, qui est à moitié psychopathe. Ça fonctionne également de ce côté-là. Donc on a dit, on avait des promesses cronenbergiennes qu'on n'a pas eues. La partie Elysium à présent. Alors bon, on voit dans ce film-là que Blomkamp, c'est pas Spielberg de Minority Report justement, c'est pas Alex Proyas d'iRobot, c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise dans le côté crade que dans le côté lisse et papier glacé. Donc c'est vrai que la partie Elysium, même s'il y a un gros travail à glorifier sur ce film, qui est la direction artistique, qui est aussi belle dans les bidonvilles que dans la société complètement aseptisée d'Elysium, c'est vrai que côté mise en scène et côté histoire, c'est là que ça part et effectivement notre boudin. Et là où on retrouve les poncifs du cinéma hollywoodien attendu, avec à partir de là, tout est cousu de fil blanc, il faut le dire. Donc un film qui joue sur deux tableaux, il touche plus sa cible dans la première partie, le dernier acte étant franchement raté, je me répète. Il y a aussi de nombreux déséquilibres dans ce film, les flashbacks sont super lourdingues, ils essaient de caser une histoire d'amour au milieu de tout ça qui est vraiment très très mal géré. Le truc du film, c'est que le principal retournement de scénario, c'est cette fameuse mise à jour géante du programme Elysium. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est vrai qu'au niveau incohérence, on se fout vraiment notre gueule dans le film. Et puis le film est aussi avant tout un film d'action, et les nombreuses bastons sont assez inégales, entre niveaux assez inégales. Les premières bastons dans le bidonville se sont méga efficaces, où on voit des déferlements d'effets spéciaux et de coups spéciaux associés aux personnages, donc ça fonctionne plutôt pas mal, surtout quand on a des mines qui te déchiquettent des gens, un côté vraiment crade qui marche bien. Après, une fois qu'il y a la grosse baston sur Elysium, ça fonctionne plus. On est à nouveau dans du corps à corps hollywoodien où tu comprends rien, les caméras bougent dans tous les sens. C'est également dommage sur ce côté-là. Ça fait beaucoup de côtés, je vous l'accorde. Côté casting, on a déjà parlé de Matt Damon et de Charlton Copley, William Fichtner également. Mention spéciale pour Jodie Foster, qui est en pute intégrale, mais vraiment, elle est atomique. Elle fait vraiment bien les salopes du futur, il n'y a pas de problème, la salope froide, inhumaine, instigatrice au possible. Donc de ce côté-là également, c'est une réussite. Qu'est-ce qui nous reste comme impression en sortant d'Elysium? Je pense que c'est un film qui fera partie des films marquants au niveau esthétique, au niveau direction artistique et au niveau des promesses, puisque le film tient une partie de ses promesses. Par contre, l'autre moitié du film est franchement ratée, et c'est vrai que ça fait c'est très déceptif, et c'est dommage, ça fait mal au cœur. Donc je vous encourage à revoir District 9. Ceux qui auront vu Elysium pour ne pas, qui auront découvert Neil Blomkamp surtout avec ce film, de ne pas rester sur cette impression mitigée. Donc précipitez-vous sur le DVD de District 9. Pour les autres qui ont aimé Elysium, vous avez aussi vos raisons, et le film encore une fois fonctionne pas mal sur beaucoup de tableaux, notamment la direction artistique. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Elysium, qui est une semi-déception à mon avis, malgré de nombreuses qualités dont j'ai déjà parlé dans cette chronique. Voilà, Elysium de Neil Blomkamp avec Matt Damon et Charlton Copley, quand même pour les amateurs de SF et de design de vaisseau, un film absolument à voir quand même.
En termes de longueur, sur l'échelle Audio Connard, tu penses entre combien, 9000 ou 12000 mots?
Je pense qu'il y a beaucoup à dire, mais en même temps, donc il y a pas mal de mots à dire, parce que même moi qui suis pas sujet à noter les incohérences, j'en ai vu pas mal, donc je pense que quelqu'un qui a l'œil acéré va en détecter pas mal aussi, et beaucoup plus.
Tout à fait autre chose, maintenant, avec, ma foi, du sport, qu'est-ce que tu nous as trouvé?
On est dans d'autres registres.
Ah non, mais je sais pas quoi passer comme fond.
Ouais, bah, là tu peux passer ce que tu veux, parce qu'on va passer assez rapidement sur Percy Jackson.
La mer des monstres.
La mer des monstres, c'est donc le second de la série des Percy Jackson, des personnages créés par... Rick Riordan, qui a écrit déjà 6 bouquins, d'après ce que mon fils me dit, hein, donc il faut croire ses paroles vu qu'il en a lu pas mal. Ça c'est le deuxième. Alors c'est pas compliqué, hein, c'est un mélange de mythologie grecque et de mythes et culture de l'American Way of Life. Voilà, c'est comme ça qu'on peut définir un petit peu le concept du truc. Et dans ce Percy Jackson, la mère des monstres, en fait, la quête de Percy, ça va être un mélange de Jason et les Argonautes et de l'Odyssée d'Homère. Hein, si vous suivez, bon bah
oui, on a vu dans la bande annonce, on pouvait déjà voir ça.
Voilà, parce que moi, en fait, il va devoir chercher la toison d'or pour une raison quelconque, et pour se faire emprunter des chemins qui vont le mener de Charybde en Scylla. Effectivement, ah.
Oui,
passant par la caverne de Polyphème. Enfin bon,
Est-ce qu'il va rater les raccourcis pour entrer chez lui et qu'il va mettre 20 ans pour entrer chez lui après?
Non, pas du tout. Je pense que là c'est bien ficelé de toute façon, il y a pas de problème. Bon, c'est vraiment le film d'ado parfait, avec quelques petites références peut-être pour les personnes un petit peu plus âgées, mais on n'en fait pas trop. Surtout, c'est un film américain, hein, donc surtout faut pas trop les embrouiller. On prend beaucoup de facilité, on va dire, avec l'original mythologie grecque. Hein, il y a pas de problème, hein, quand ça arrange, c'est tranquille. Bref, ça marche. Alors le pitch, c'est pas compliqué. Dans ce Percy Jackson, la mère des monstres, le problème, c'est que bon, il faut savoir que il existe donc les dieux de l'Olympe et les humains. Et sauf que bon bah les dieux de l'Olympe, ils ont la vache l'habitude d'aller batifoler avec des humaines ou des humains, hein, et que ça donne.
Zeus, tu nous écoutes.
Oui, y a pas que lui, hein, y en a plein d'autres. Y en a d'autres quoi. De ce fait, il se retrouve avec dans la mythologie on appelle ça des demi-dieux.
Là, des héros. Le nom, je crois que c'est les héros, justement, ce sont ceux qui sont...
Des demi-dieux.
Des demi-dieux. Hercule est un demi-dieu.
Voilà.
D'ailleurs, l'occasion de placer que la prochaine, le prochain film adapté de la mythologie, ce sera Hercule avec The Rock.
Ouais. Des demi-dieux, donc, qui sont nommés des sang-mêlés. On va dire dans le film, dans la version française, hein, du moins quoi. Alors bon, la version originale, je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin ça doit être un petit peu l'équivalent. Et pour vivre donc sur la terre, ils ont un endroit dans pleine forêt et tout, un beau petit village et tout. Le truc qu'on découvre dans le premier Percy Jackson, hein, de toute façon quoi. Donc pour ceux qui ont... tu as vu le premier Percy Jackson, non, tu l'as pas vu toi non plus quoi. C'est j'en parlerai un petit peu plus tard vite fait. Mais bon, suite à une aventure qui s'est passée, parce qu'il y a un flashback en début du film qui permet de préciser pourquoi ils peuvent vivre dans ce village, qui replace un petit peu les choses dans leur contexte vite fait, et ils sont protégés par un espèce de truc inviolable. Un champ de force qui empêche les monstres, les cyclopes, enfin toutes les bestioles qui vivent dans la forêt, d'attaquer le village et d'essayer de les choper. Sauf que, il se passe qu'il y a quelqu'un qui a trouvé le moyen de faire péter le champ de force. Et que donc le village n'est plus en sûreté. Et la raison qui permettrait de remettre ce champ de force, se trouve dans la quête de la toison d'or. Une toison d'or qui permet de guérir, hein, qui permet de soulager instantanément. Enfin, avant, quelqu'un qui est mort et tout va renaître et tout, c'est le principe de la toison d'or. Ok. Et le film va prendre des allures d'aventure, comme je l'ai dit avant, quoi. C'est-à-dire c'est entre Jason et les Argonautes et l'Odyssée, avec toujours les trois héros, hein, c'est-à-dire Logan Lerman qui joue le rôle de Percy Jackson, avec Alessandra Daddario qui joue le rôle d'Annabeth, et Brandon T. Jackson qui joue le rôle du satyre Grover, hein, satyre, c'est le mec avec la moitié humaine supérieure et l'autre la moitié inférieure.
De bouc, hein.
De bouc, quoi. Ouais. D'accord, hein, c'est les créatures de Dionysos. Alors, on a Stanley Tucci dans le rôle de Dionysos, justement. Alors, il est méconnaissable parce que bon, il a la barbe, les cheveux longs et tout, donc laisse tomber pour le reconnaître. D'habitude, il y a toujours plus ou moins chauve, tu sais.
Oui.
Déjà début de calvitie au départ, quoi. Donc il faut le savoir quand même. Et tu as Anthony Head de la série Buffy, qui joue le rôle de Chiron.
C'est Giles.
Giles, voilà, quoi. Qui joue le rôle de Chiron. Chiron, dont le rôle était tenu par Pierce Brosnan dans le premier. Là, c'est des centaures, hein. C'est-à-dire, moitié humain, moitié cheval, quoi. Donc, au niveau des effets spéciaux, laisse tomber, il n'y a rien à dire, c'est nickel, quoi. C'est-à-dire que ça marche très bien, les intégrations, tous les trucs et tout, c'est, Là, c'est au point, il y a plus rien à dire, tout, hein, les bestioles, le fameux Charybde et tout, quand même une énorme bestiole dans l'eau et tout, quoi. Parce qu'il faut savoir, en fait, que la mer des monstres, justement, quoi, dans la mythologie, on sait pas trop où c'est, bon, nous, on sait que c'est en Méditerranée, on arrive à situer les endroits et tout, quoi, parce que bon, bah, il y a des gens qui ont fait beaucoup de recherches dessus, des scientifiques, quoi. Mais bon, les Ricains, eux, ils ramènent ça à la mer des Sargasses, à savoir le triangle des Bermudes. Comme c'est plus facile.
Oh, les plus faciles.
Et c'est juste à côté.
C'est juste à côté.
Mais
simple.
Oui, parce que tu descends, tu vas en Floride et puis t'es juste à côté. Ouais, elle est bonne, hein. Elle est bonne. Si, si, bah, écoute, c'est un des arguments du film, hein, de toute façon, quoi. Donc, faut faire avec. Et, bon, bah, pour le trio, ça marche bien. Mais enfin, bon. Je dis Pierce Brosnan dans le premier, c'est ce qu'on regrette un petit peu, hein, c'est que dans le premier, t'avais quand même un casting qui tue de la mort, quoi, avec donc Pierce Brosnan qui joue le rôle de Chiron, Catherine Keener, Uma Thurman dans le rôle de la Méduse, Melissa Caredes de CSI, qui joue le rôle de je sais plus qui, Joe Pantoliano, Rosario Dawson dans le rôle de Perséphone, Sean Bean, c'est le papa de Percy Jackson, hein, c'est Poséidon.
Excellent.
Il l'implore plusieurs fois dans ce film. Il y a même son frère, demi-frère, qui va arriver, mais tu le vois jamais du film. Que dalle. C'est-à-dire, là, je viens de citer, Anthony Head, voilà quels sont les gros noms, on va dire, du film. Et j'ai oublié le meilleur pour la fin, quand même, Nathan Fillion.
Ah!
Nathan Fillion dans le rôle de Hermès. Alors,
il est bientôt de retour, hein.
Il a toujours sa mèche.
Ah non plus du tout, parce que là bon bah il joue le rôle d'Hermès et en fait c'est assez rigolo parce que la façon d'aller voir Hermès et tout, quoi, c'est que bon bah ils sont en ville et puis bon le premier truc qu'ils voient, c'est dès qu'ils voient un bureau du PS, ils rentrent dedans et tu vois apparaître le placing, il y en a plusieurs, mais enfin celui-là il est quand même énorme, quoi, tu vois, quoi, parce que bon en plus comme Percy est dyslexique, donc des fois il voit des trucs, mais ça change. Donc lui il voit pas, il lit pas UPS, il voit OPS, Olympique Post Service,
ouais,
d'accord, à la
d'accord.
place UPS. Quoi.
Ouais.
Et l'apparition de Nathan Fillion, c'est ce qui vaut quand même le déplacement, on va dire, pour ceux qui sont amoureux de Nathan Fillion. Quoi.
Et il y en a.
Parce que l'apparition, au départ, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment lui? Bermuda, mais très finement coupé, quoi, avec le polo rentré dedans, genre Ralph Lauren, tu vois. Tu te dis, d'accord,
joueur de golf.
Ok, genre employé de poste. Et en fait, bon, bah, c'est lui qui dirige tout le service postal et tout. Enfin bon, c'est pas mal, c'est bien foutu. L'apparition est vraiment sympa. Et puis bon, ça vaut déjà son pesant de cacahuètes. Déjà, ça sauve un petit peu le film. C'est assez rigolo. Après, le film est quand même assez rigolo, bien mené. Faut dire qu'il y a de l'action et que, bah, il n'y a pas vraiment de temps mort. Bon, il y a de grosses incohérences et tout. Moi, je pensais que la toison d'or, ça pouvait servir qu'une fois et tout. Là, dans le film, allez, vas-y, quand la. Oh, bah, on va s'en servir plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Et ça fonctionne, hein, donc le film se finit bien, tranquille, sympathique et tout. Mais c'est un film qui me laisse quand même très très bien regarder, hein, qui a vraiment pas de longueur. Donc de ce côté-là, un film de l'été, allez-y sans problème. C'est réalisé par Thor Freudenthal, qui est carrément complètement inconnu de mes services. J'ai fait vite fait une recherche, même quand tu fais la recherche, je trouve pas, quoi. Tu
vois. Ah ouais?
Ah ouais, il est avec le nom en rouge et tout, donc ok, pas d'indication.
Bon,
c'est bon. Okay,
c'est peut-être quoi. Un pseudo.
Mais pourtant, bon, ok, c'est bien foutu, hein, c'est bien réalisé, quoi, il n'y a pas de problème, quoi.
Et donc, sur les. Bon, là, je te prends un peu au dépourvu, t'as pas préparé la question, mais sur l'échelle des films pour les gamins avec beaucoup d'effets spéciaux, comme L'apprenti sorcier, ah bah tiens, avec Nicolas Cage, donc des trucs comme ça, est-ce qu'il fait partie du haut du panier? Comment il se situe par rapport au 1? Est-ce qu'il est en dedans ou est-ce qu'il est au même niveau?
On va dire qu'il est un petit peu en dedans par rapport au premier, quoi, mais bon, il est tout à fait regardable, hein, tout à fait.
D'accord, à partir de quel âge?
Je veux dire, on va dire à partir de 10 ans quand même, quoi, parce que bon, bah,
oui.
On va dire. Il n'y a pas de mort dedans, hein, bon, mais bon.
À la mer des monstres, ça peut, on a vu la bande-annonce avec les dents, ça peut choquer un petit peu, non?
Ouais. Ah, t'as vu le gros truc avec les dents, là?
Bah oui, parce que j'ai vu la bande-annonce.
Ah, ben voilà.
Donc, la nana qui dit.
Charybde.
D'accord. Donc, elle dit. Ne me dis pas que c'est une tornade, c'est pas une tornade.
Non. Non, non, non. Voilà, donc c'est Percy Jackson, hein, encore au cinéma. Allez le voir, même en 2D, ça vaut le coup, hein, c'est disponible, il passe en 3D, tout quoi, la 3D, à mon avis, est dispensable. Il y a quelques scènes, effectivement, où bon, bah, tu dois avoir un petit plus, mais enfin bon, c'est pas vraiment le mec plus ultra et tout. Il y a pas mal d'humour dans le film, c'est ça qui est aussi assez sympathique, hein, qui le rend assez attrayant. Dionysos qui pense qu'à boire du pinard et tout, alors il
obligé.
A des bouteilles. Ah, oh, regarde-moi, c'est un Bourgogne de 60. Mais le problème, c'est que comme Zeus lui a jeté un sort, chaque fois qu'il verse le vin dans le verre, le vin se transforme en eau.
Oh,
ben, y a plein de petits gags comme ça, quoi, des gimmicks et tout, qui sont vraiment sympathiques et tout, qui rendent le film aussi intéressant, bah, pour les personnes un peu plus âgées, je veux dire, pas uniquement que pour les ados, qui on va dire avoir une vision un petit peu primaire du truc, sans regarder, sans chercher un petit peu plus loin. Donc, de ce côté-là, quoi, y a pas de problème non plus. Donc, Percy Jackson au cinéma. Là, on s'attaque maintenant au gros.
On va couper peut-être.
Il est 13h16.
Ouais, ouais.
American Money, extrait de la bande originale de la série Cowboy Bebop par Yoko Kanno and Sid Belts, et enregistré à Paris.
C'est pas du placing.
Franchement. Bah non, mais c'était pour le coup. Allez.
Quand même, on parle à présent du Lone Ranger. Sous-titré Naissance d'un héros en français. Ce qui est un petit peu ridicule, mais bon, tant pis, hein, c'est mon avis personnel. Le Lone Ranger, à l'origine, c'est une émission de radio. C'est un feuilleton radiophonique qui a connu son heure de gloire dans les années 30, surtout, qui a commencé dans les années 30, hein, en 1933, le 30 janvier 1933, c'était à Detroit, Michigan. Et ça a duré jusqu'en 1954, 2954 épisodes. On est encore là, du compte, avec Supplément Week-end. À l'époque, de toute façon, il n'y avait pas la télé. Donc les gens se réunissaient autour du poste de télé, du poste de radio, pour ceux qui avaient un poste de radio, qui avaient assez de pognon pour écouter le poste de radio. Et ça leur faisait des fois, bah, le soir, après une journée de boulot, ça leur faisait un petit peu de détente et tout. Écouter les infos, écouter le feuilleton et des petites choses comme ça.
Mais c'est comme ça que Orson Welles avait choqué
exactement,
les États-Unis avec l'invasion.
Exactement. Et c'est comme ça aussi que les gens écoutaient la musique et tout, le Grand Ole Opry, le fameux bal country de Nashville qui était rediffusé sur pas mal de radios dans le sud. Et donc les gens, bah, ils écoutaient ça, quoi, dans leur chambre, parce que il n'y avait plus de barn dance, de trucs comme ça, de groupes en direct qui pouvaient se déplacer dans les fermes pour animer les petits bals du samedi soir, les bals improvisés. Revenons au Lone Ranger. Donc cette série, après, bah, c'est devenu également une série télé, c'est devenu l'objet de nombreux téléfilms, c'est une série animée, j'en ai parlé. Il y a eu également une série télé, mais enfin bon, qui n'a pas duré trop longtemps. Et donc, c'est devenu ce fameux film. Mais il faut savoir aussi qu'à l'origine, eh bien, les créateurs de cette série, dans les années 50, fin des années 50, début des années 60, ont réfléchi à un nouveau concept et se sont dit, ok, ben, on va continuer dans notre trip. Toujours la même chose, hein, le héros solitaire, vengeur, redresseur de tort, avec son acolyte, un des deux est masqué, les deux sont pas de la même ethnie, on va dire, ou de la même race, hein, si on veut aller un petit peu plus loin, quoi. Et dans le style duo buddy movie, enfin un truc comme ça, quoi. Hein, c'est-à-dire pas mal d'action, mais également pas mal d'humour quand même. Et ça va nous donner, le frelon vert. Le frelon vert qui fait partie de la même famille en fait que le Lone Ranger. Le Lone Ranger, son nom c'est John Reed. Et John Reed, en fait, eh bien, deux générations plus tard, ça va donner un certain Brett Reed, à savoir le frelon vert, qui est donc le petit-fils.
Oh là là, d'accord.
Dans l'historique créé par ceux qui ont créé le Lone Ranger, puis le frelon vert. D'accord.
Okay.
Ok, pour vous replacer un petit peu les choses dans le contexte.
D'ailleurs, hein. Ils ont pris un acteur qui lui ressemble à celui qui fait le frelon vert.
Ouais, peut-être, ouais. On en parlera plus tard, hein, de l'acteur. Donc, on voit que, c'est un truc qui date quand même, il y a pas mal de temps, et qui est peut-être un petit peu très difficile maintenant à remettre au goût du jour. Parce que les époques ont complètement changé. Et même si c'est, on va dire, un héros qui est transgénérationnel sur au moins deux générations tranquilles, les nouvelles générations, elles, ne connaissent pas trop le Lone Ranger, si ce n'est à part à travers certaines expressions populaires, dans le parler tous les jours, dans les petites choses comme ça, dans des petites références au temps passé, aux héros et aux façons de se comporter. Alors c'est ça qui est surtout très important, parce que ça nous amène au personnage justement, quoi, de Lone Ranger. Alors The Lone Ranger dans le film, c'est John Reed. Alors le pitch, il est très très simple, hein, c'est que John Reed est à la poursuite d'un dangereux criminel, Butch Cavendish, qui est promis à la potence, mais seulement il réussit à s'échapper. Le John Reed va joindre, John Reed au départ est un homme de loi, c'est un avocat, et c'est son frère Dan Reed qui lui est un Lone Ranger, est un ranger, et avec sa bande de rangers, ils vont essayer de poursuivre Cavendish. Sauf que ils vont tomber dans une embuscade et tout le monde va mourir, sauf John, qui est laissé pour mort, on va dire, et qui va être plus ou moins sauvé par un Indien un petit peu bizarre avec un corbeau sur la tête, qui s'appelle Tonto. Et alors après cela, il y a toute une bonne demi-heure, on va dire, pour que John Reed se mette dans la tête qu'il peut être un Lone Ranger et qu'il a une mission à accomplir et que il y a une part de vengeance et tout, et qu'il va falloir qu'il accorde peut-être ses violons avec son acolyte qu'il ne connaît pas. C'est un Comanche, c'est Tonto, quoi, tu vois. En plus, c'est un type qui parle bizarrement, des fois, qui fait des trucs complètement bizarres et tout, quoi. Il prend une poignée de riz, puis tu la lances devant toi. Des trucs, tu te demandes, quoi. Et à partir de la première heure du film, 1h10, là le film démarre vraiment dans l'action, à savoir la recherche de Butch Cavendish, parce qu'en fait c'est le thème de la vengeance, le thème de la vengeance et tout ça. Donc là pratiquement j'ai tout dit et je peux pas difficilement en dire plus, parce que sinon c'est un petit peu chiant. L'histoire est quand même vachement linéaire, assez simple, quoi. Donc on s'attend à pas mal de choses. Ce qu'il y a d'intéressant dans le film, c'est toute la verve que peut y mettre Gore Verbinski. On l'a vu dans les Pirates des Caraïbes. C'est le talent des acteurs et ça fonctionne vraiment très très bien.
Alors justement, question, on va dire attendue et un peu à la con. Ceux qui ont aimé les Pirates des Caraïbes s'y retrouveront-ils avec cette histoire de western ?
Je pense que oui, parce qu'il y a des scènes aussi port-nawesques que dans les Pirates de Caraïbes, donc je pense qu'il y a aucun problème de ce côté-là. Moi, j'ai trouvé ça un peu too much, quoi.
C'était une impression effectivement que j'ai vue dans les extraits que l'on a vu à la télé. Donc le PK, hein, en général, c'est les meilleurs moments. Donc on donne 2-3 scènes pour illustrer les sujets. Et j'ai l'impression que c'était un petit peu, tu vois, la surenchère et d'entrée.
C'est la surenchère, ça, y a pas de problème. Il faut dire qu'une grosse partie de l'histoire est basée sur la construction d'une ligne de chemin de fer, et que donc le train occupe une place centrale, et qu'un train, quand ça déraille, c'est super génial parce que ça fait plein de trucs partout, quoi. Donc Gore Verbinski, il y est allé à fond, mais vraiment à fond. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs scènes, on va dire, à plusieurs moments du film, avec des trains, d'accord ? Toujours plus ou moins sur la même ligne. Mais déjà, dès la première scène, tu dis « Ah bon, d'accord, ok, j'ai compris, ça va. » Alors qu'au départ, tu vois un western, tu vois que Verbinski, ben, je pense qu'il a jamais tâté du genre. Là, eh ben, t'as des images qui sont absolument somptueuses. Il a pas voulu faire du copier-coller comme Tarantino dans Django, quoi. C'est-à-dire, ok, moi je connais mes références. Attends, je vais me remettre ma caméra exactement au même endroit où Ford l'avait mis pour tel film. Enfin, tu as des trucs. Non, lui, il a voulu être un petit peu original.
Il
a voulu faire un bon film de beaux trucs et tout, et ça fonctionne à fond les manettes. T'as les paysages qui sont magnifiques, c'est excellent. En plus, avec le budget, il s'est dit, je vais pas m'emmerder la vie, moi, quoi. Je vais aller filmer dans la vallée de la mort, je vais aller filer un monument de Valais. Tous les décors naturels que tu vois, c'est des décors naturels que tu vois dans les films dans les westerns des années 50, 60, 70. De toute façon, hein, comme pour la plupart. Mais bon, bah, lui, il y met sa patte, il y met son cadrage un petit peu spécifique, qui est assez intéressant, moi, je trouve, quoi. Et donc, bah, ça fait un film au niveau technique, moi, qui m'a vraiment bien emballé, à part les effets spéciaux qui sont vraiment too much, les déraillements, les trucs comme ça, il y a des trucs, le cheval qui court sur les toits,
ouais, et ça on l'a vu dans la bande annonce,
saute sur le train, ça c'est la scène finale, hein, si tu veux, quoi, ça amorce la scène finale, voilà, quoi. Alors les incohérences maintenant, quoi, c'est bien, parce que quand je vais au cinéma avec mon fils aîné, c'est lui qui dès la sortie du film me dit ah ouais mais t'as vu mais ça c'est pas possible et tout, qui me note, qui me sort les petites incohérences.
Et ceci alors, dit, quand tu dis que Gore Verbinski c'est son premier western, c'est faux.
Je sais pas justement quoi.
Et pourquoi? Parce que son précédent film c'était Rango, le film d'animation.
Ouais, c'est vrai. Alors là, bon bah d'accord, c'est vrai. Non, mais son premier film, on va dire,
oui.
Là l'animation.
Oui, oui.
Puis bon,
c'était
déjà quand tu vois Rango, tu te dis OK, le mec, il connaît ses classiques.
Oui, et puis il s'amuse avec.
Il a rien à dire, ouais. Il s'amuse avec, il respecte le genre aussi. Ça aussi c'est très important et ça le fait. Alors, parlons à présent des acteurs parce que c'est quand même ça qui tient aussi un petit peu le film, hein, parce que bon, des effets spéciaux et tout, c'est bien gentil, mais bon, ça tient pas un film. Armie Hammer, donc, le problème, c'est que ce type est complètement inconnu. Il démarre et il joue le premier rôle d'une super production à je sais pas combien de centaines de millions de dollars. Hein. Et donc, en face de lui, Johnny Depp, qui joue le rôle de Tonto. Donc,
C'est illégal.
Hein?
C'est inégal. C'est déséquilibré.
C'est un petit peu inégal, c'est un petit peu déséquilibré au départ. Eh bien non, ça fonctionne à fond les manettes, justement parce que Armie Hammer, c'est une découverte, hein, moi je trouve, quoi, c'est une découverte. Bon, ce type peut-être qu'il fera pas une superbe carrière, hein, ça c'est les aléas d'une carrière d'acteur à Hollywood. Mais en tout cas, dans ce film, il se démerde vraiment très très bien. Il arrive à être au niveau de Johnny Depp, et pourtant là, Johnny Depp, hein, qui joue le rôle d'un Indien avec des trucs très Indien, Comanche, quoi, ouais. Barré complètement, quoi. C'est ça fonctionne vraiment du feu de Dieu. De toute façon, Johnny Depp, c'est lui, à mon avis, qui porte le film, et c'est lui qui fait plus venir les spectateurs au départ Armie Hammer. Il y a pas de problème.
Bah, après, c'est Jack Sparrow en Indien.
Ouais, mais pas pareil. Pas pareil, parce que un peu moins bavard, on va dire, quoi. Ouais. Mais excellente prestation. Il y a rien à dire là. La prestation est vraiment excellente. Après, t'as d'autres second rôles. James Bechdel, il joue le rôle de Dan Reed, donc le frère qui est le ranger, mais qui va mourir, quoi. Là, j'en dévoile un petit peu, quoi, et qui va être tué par Butch Cavendish, ce qui va induire la vengeance, quoi, justement. Enfin, plutôt la thématique de vengeance. Ruth Wilson, elle joue le rôle de la femme de James Bechdel, donc la belle-sœur de John Reed. Ruth Wilson, c'est la barge cinglée qu'on voit, qui est un petit peu la némésis de Idris Elba dans Luther, dans la première saison de Luther, où elle est vraiment très 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 bonne dans ce genre de rôle d'hystérique. Mais là, elle a un rôle qui est un petit peu en deçà, on va dire. Bon, elle a son petit lot de cascade quand même, pas dégueulasse, pas négligeable, parce que elle a dû payer sa personne, à mon avis, quand même, sur le tournage. Mais le rôle féminin, un petit peu en deçà, on va dire. Après, on a Tom Wilkinson qui joue le rôle de Latham Cole, qui est en fait le grand méchant, celui qui est l'organisateur de tout ce complot, on va dire, comment on peut l'appeler. Helena Bonham Carter qui joue un second rôle tout à fait excellent de tenancière de bordel avec une jambe artificielle en ivoire qui cache
des petits gadgets,
on va dire. James Frayne également présent dans le casting, mais enfin bon, on le voit pas beaucoup, quoi. Et puis bon, comme dans le film, il y a beaucoup de gens qui sont très mal rasés, des cow-boys et tout, qui ont des barbes encore plus longues que celles de ZZ Top, des cheveux, enfin tu le crois pas, enfin bon, des tronches. Il y a surtout le méchant. Dans un bon film, il faut qu'il y ait un super méchant. Alors, c'est le méchant d'origine, hein, c'est le méchant que tout le monde connaît, hein, dans l'histoire du Lone Ranger et le Tonto, quoi. C'est Butch Cavendish, hein, le fameux méchant. Mais là, interprété par William Fichtner.
Ah,
qui
d'accord.
a été maquillé au point d'être pratiquement méconnaissable. Alors je pense que Fichtner, il s'est dit, bon, je vais jouer avec Johnny Depp qui interprétait Jack Sparrow dans un autre film de Gore Verbinski et tout, donc je vais un petit peu me faire un truc à la Jack Sparrow au niveau des dents complètement pourries. Mmh. Il a carrément une cicatrice là, quoi, à la lèvre, qui est vachement bien foutue. Il est horrible à souhait. Il est sanglant à souhait. Le film n'est pas trop sanglant, mais il y a quand même beaucoup de morts dans ce film, hein, je tiens à le préciser. Il y a également une thématique, s'il y a beaucoup de morts, c'est qu'à un certain moment, il va falloir nettoyer les comanches parce que ils ont rompu le traité de paix, enfin bon, ça fait partie du film. Et que là, Verbinski, eh ben, il va prendre, bon, on va dire, le parti de n'importe quel être humain normalement constitué, quoi. Ok, ben, on va assister à un massacre d'Indiens, quoi, et puis bon, on assiste. Un massacre d'Indiens, bon, filmé par Verbinski, donc ça va, mais l'effet est là quand même, quoi. Hein, quand tu vois la fin de la scène, tu dis ok, j'ai compris, ça va. N'en rajoutez pas. Mais ok, c'est quand même très soft. Hein, je veux dire, c'est pas des myriades de sang, quoi, comme dans les Tarantino justement, quoi. Ça reste quand même très très soft. Bref, ça nous fait vraiment un truc assez impressionnant parce que là, William Fichtner, là, je veux dire, il est vraiment très très bon. Alors le scénario classique avec rebondissement, avec petite scène d'intermède pour se reposer, reprendre un petit peu de popcorn et de coca, mais sinon c'est vraiment un film excellent.
Alors du coup, tu encouragerais les spectateurs vraiment à passer outre en fait l'énorme flop que ça a été aux États-Unis et de se dire non, c'est pas révélateur.
Mais justement, c'est ce que je disais au début. Je pense que aux États-Unis, je pense que c'est un problème de culture. Peut-être qu'ils connaissent trop le Lone Ranger, quoi, pour se dire ok, quoi, quel intérêt de nous ressortir un truc comme ça, quoi, et que le Lone Ranger n'est plus présent dans l'imaginaire américain comme peut l'être, par exemple, comme peuvent l'être les personnages du comics. Les gens peuvent continuer à en acheter aux États-Unis. Spider-Man, Batman, tous ces gens-là.
Sachant que le Lone
Ranger
encore
vivant dans les comics. Bon, il y a eu une tentative.
Sachant que le Lone Ranger a été dans les comics, je crois, jusque dans le milieu des années 70, je crois même années 80.
Il y a eu une tentative de reboot du Lone Ranger chez Dynamite Comics dans les années 2000 avec John Cassaday, avec quand même des gens du lourd, quoi, on va dire. Mais bon, c'est resté un petit peu confidentiel, quoi. On va dire que bon, ben, c'est un personnage du passé. De ce fait, je pense que ça a un petit peu joué de ce fait-là. L'autre fait qui a beaucoup joué, quoi, aussi, c'est prendre un premier rôle qui est complètement inconnu ou qui est inconnu de la majeure partie des gens. Peut-être que c'est un type qui a été un acteur vedette dans plus jeune. En tant qu'ado, dans une série à succès, série à d'autres, mais bon, le gros problème, à mon avis, ça a été ça. Parce que le film en lui-même, il n'y a pas de problème, quoi. C'est vraiment un excellent film. C'est du Verbinski, il n'y a pas. Et la performance des acteurs, surtout Johnny Depp, William Fichtner et Armie Hammer, les trois, c'est nickel, il n'y a rien à dire.
Alors moi, il me vient en tête, quand je t'écoute faire ta chronique, un autre film western complètement décalé, avec une araignée géante en fer à la fin, un cul-de-jatte en méchant qui est Kenneth Branagh.
Oh non, pitié.
Et
le mystère de l'Ouest.
Réalisé par Barry Sonnenfeld. Alors du coup, est-ce que c'est l'un par rapport à l'autre? Est-ce que celui-là est beaucoup mieux?
Ah ouais, c'est vachement mieux. Hein. Disons que
Lone Ranger est beaucoup mieux.
Lone Ranger est beaucoup mieux parce qu'on reste dans le classique. C'est-à-dire que bon, bah, il n'y a pas d'éléments, on va dire, fantastique entre guillemets comme il peut y en avoir dans les mystères de l'Ouest. Hein. C'est bon, bah ça reste vraiment du gros classique. Ça revisite à sa façon hein, une histoire de l'Amérique. De toute façon, c'est quelques petits pans de l'histoire de l'Amérique avec des thématiques qui sont très très connues maintenant hein, de cette histoire et qui sont intégrées justement quoi dans l'aventure du Lone Ranger. Hein, qui je citais là. La scène du massacre des Indiens, il y en a d'autres comme ça, justement, bon, bah, quelques petites allusions sur la construction du chemin de fer, tout ça, enfin bon, c'est fin, ça va pas loin, c'est pas, Verbinski n'est pas un agitateur gauchiste, mais quand même, il y a des petits trucs, on pousse un petit peu, on met quelques petits trucs comme ça, allez, ok, c'est peut-être aussi pour se donner bonne conscience, mais ça, c'est lui que ça regarde de toute façon. En tout cas, allez-y, hein, c'est vraiment un bon moment. Le film fait plus de 2 heures, mais enfin, on les sent pas passer, quoi, donc, ça veut dire que, en principe, c'est quand même un film qui est pas trop mauvais.
13h37 sur le supplément week-end. Je pense que là, avec ça, du sport, il a même plus de télé.
Oh putain, c'est dommage.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries.
Ou alors tu écrèmes un peu.
Ouais, ouais, on va voir.
Fais du light,
de toute façon, on a déjà fait le samedi, hein, ce soir sur France 4, 23h15, 5h25.
Ouais, c'est rediffusé lundi ou mardi.
Je sais plus, mais en tout cas, moi je tiendrai pas jusqu'au bout, j'enregistre, je me fais pas chier.
Ah, tu parles des Recorp.
Ah, oui. Visiteurs du futur, ça c'est le dimanche. Non, et après.
Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté du
Alors, ce soir sur Arte à 22h35, un super documentaire inédit de Dieter Post et Lucia Palacios sur Donna Summer. And give me hot stuff, baby, tonight. Ah ouais, tu connais tes classiques, toi. Sur RTL 9 ce soir également à 20h45, Arak Attack des Laurie Elkayem avec David Arquette, Carrie Vurer, Scarlett Johansson et Doogie Doug. Et juste après, à 22h30, Manuela ou l'impossible plaisir de Marc Riva. Marc Riva, ce nom vous dit quelque chose.
Oui,
si
peut-être.
Vous étiez des familiers du film de M6 le dimanche soir après minuit.
Après Culture Pub.
Voilà, après Culture Pub. Avec Philippe Lejeune, Clara Morgan et Mélanie Coste. Les deux pour le prix d'une. Bon, ça reste du soft quand même. Et sinon, sur Signe Plus Classique, Charlie Le Borgne de Don Chaffee en 73. Ouh. Avec Richard Roundtree, Roy Thinnes et Nigel Davenport. Donald Chaffee, c'est le mec qui nous a fait Jason et les Argonautes, dont on parlait avant. Hein. C'est le mec qui nous a fait aussi Un million d'années avant Jésus-Christ avec Raquel Welch en peau de bête.
Ah ouais, très bien.
Pas mal dans les années 60. Et là, c'est un western où t'as Roy Thinnes, donc, hein, vous voyez qui est Roy Thinnes quand même, quoi. David Vincent.
Ah oui.
Roy Thinnes qui est un indien borgne avec un black déserteur de l'armée de la guerre de sécession. Voilà, c'est un petit peu l'histoire de ce western. C'est ce soir donc sur Ciné Plus Classique. TCM vous propose L'amour en quatrième vitesse de George Sidney. Viva Las Vegas. Elvis, Anne-Margrethe, les courses de bagnole, Las Vegas. Ouais, cool. George Sidney qui a quand même fait des super films, pratiquement des chefs-d'œuvre avec Les Trois Mousquetaires. Jane Kelly dans Les Trois Mousquetaires en 48, Showboat, une excellente comédie musicale, Scaramouche en 52, hein, quand même, avec Stuart Granger, merde quoi. Et il nous fait, bon bah du Elvis quoi, bon bah, et il a fait encore 3-4 films après, puis s'est arrêté.
C'est l'ancêtre Hermione Granger.
Hein?
Non, pardon.
Non, c'est Stuart Granger.
Oui, c'est pas l'ancêtre de Hermione.
Je ne pense pas. Non,
ce genre de jeu de mots, cette fois-ci, je crois qu'on aura du mal.
Ouais, maintenant, j'en ai en magasin. Demain, sur France 2, à 22h30, John Rambo. Yeah.
Ah oui, le 4, excellent, le 4. Très bien, le 4.
Sur Arte, à 20h45, Tina, le film de Brian Gibson sur la vie de Tina Turner. Angela Bassett, excellente. Laurence Fishburne dans le rôle de Sly Stone aussi, bon.
Et rien qu'à voir la bande-annonce sur Arte, où on voit les différentes périodes de Tina Turner, c'est là où on voit vraiment, on est vraiment à la mesure de la performance quand même de l'actrice. C'est impressionnant.
Et après, Tina, donc le film Stevie Wonder, là c'est un documentaire de Hannes Rosacher et qui est inédit à la télé. Il a été fait cette année. Et Hannes Rosacher, c'est un mec qui avait fait d'autres documentaires musicaux qui avaient été diffusés par Arte, qui étaient vraiment très très bons. Le mec a l'air de se spécialiser, c'est pas mal parce que bon, c'est bien foutu ce qu'il fait. Sur Polar demain soir également à 21h, La case de l'oncle Tom. Alors le titre, il est complètement bidon quoi, de toute façon quoi, parce que c'est tiré du bouquin de Chester Himes, Ne nous énervons pas, ou Be Calm, Calm, ça c'est la version originale, hein, numéro 640 de la série noire. Et là, c'est Mark Warren qui réalise le film en 70. C'est donc la thématique, hein, de Chester Himes, avec toujours ces deux héros. Enfin, héros si on peut dire, hein, parce que bon, bah, y en a un qui s'appelle Coffin Head Jones et l'autre qui s'appelle Gravedigger Jones. Tu vois quoi, il y en a un qui s'appelle Ed Cercueil et l'autre qui s'appelle en version française Fossoyeur Jones. Quoi, tu vois, c'est la version française.
Tu es sûr que le film s'appelle pas, n'a pas été traduit en français Le Casse de l'Oncle Tom? Il me semble que.
Le Casse, oui, Le Casse de l'Oncle Tom.
Pour ça, j'ai dit La Casse. Case, ouais.
Ah, excuse-moi, ouais, non, c'est Le Casse de l'Oncle, Le Casse de l'Oncle Tom, donc, avec Raymond Saint-Jacques et Godfrey Cambridge. Je mets ça au coup, quand même, c'est assez sympa, parce que le film essaye de reproduire la verve qu'il y a dans le bouquin de Chester Himes, donc c'est assez sympathique, quand même. C'est sur Polar demain soir à 21h. FX vous propose deux films de vampires à 21h demain, La Messe pour Dracula de Peter Sasdy, avec Christopher Lee et Gwen Watford, et à 22h30, Les Cicatrices de Dracula avec Roy Ward, de Roy Ward Baker en 70. Lundi sur Arte, soirée Jean-Pierre Mocky, avec à 20h40 Le Miraculé de Mocky en 87, qui est pas mal du tout, on va dire. C'est pas un des meilleurs de la session des années 80, mais il y a quand même Serrault, Poiret, Jeanne Moreau, Sylvie Joly, Roland Blanche, enfin bon, casting... ça va, quoi. Par contre, celui qui est vraiment bien, c'est un des premiers Mocky, hein, c'est La Cité de l'Indicible Peur, en 64, tourné en noir et blanc, donc avec Bourville, Jean-Louis Barrault, Francis Blanche, Jacques Dufilot. Et là, c'est vraiment assez sympathique, c'est vraiment à voir. Et ça change complètement, hein, des Mocky qu'il a fait par la suite, hein. Je veux dire, il y a eu plusieurs périodes, dont les périodes Portnawak, on va dire un peu, quoi. On va dire,
là, c'est pas lui qui le produit, si je me trompe.
Et là, en 64, bon, attention, hein, c'est, il y a autre chose, hein. Il y a un petit soupçon de fantastique, un truc comme ça, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Sinon, si vous aimez pas, bon, sur RTL9, lundi, il y a également Cobra, et la plastique, à peine siliconée de, Brigitte Nielsen, le film de Georges Pankosmatos en 86.
T'as dit quelque chose sur ma nana?
Georges Pankosmatos qui a fait également Tombstone, qui passe lundi, c'est très bien, plus tard. Vraiment très très bien. Bon, western, Kurt Russell, Val Kilmer, Michael Biehn, Powers Booth. Ouais, bon, oui. Là, tu dis, bah ouais, pas de problème, hein, ça marche, quoi. À 22h, et Thompson est suivi à 22h50, lundi toujours, hein, sur Ciné Plus Tard, par Force One de Paul Aron avec Chuck Norris et Jennifer O'Neill. Jennifer O'Neill, qui l'année suivante était la vedette féminine de Scanners de Cronenberg.
Oui, et qu'on avait, ouais, avec la choucroute sur la tête.
Voilà, et qu'on avait découvert dans un été 42 en 71. FX vous propose toujours lundi à 21h Immortel, Enki Bilal avec Linda Hardy et Charlotte Rampling. Et Action vous propose un petit mort subite de Peter Ryams avec Jean-Claude Van Damme. Donc ça vous fait le choix quand même. Mardi sur Paris Première, deux westerns. Teuton, mais des vrais westerns. À 20h40, Les Aigles Noirs de Santa Fe de Ernst Hofbauer en 1965 avec Brad Harris, Joachim Hansen, Pinkas Brown et Werner Peters. Et à 22h25, Les Chercheurs d'Or de l'Arkansas de Paul Martin en 64. Et là, c'est pas un film allemand, là, c'est une coproduction italo-franco-allemande avec Brad Harris, encore lui, Mario Adorf, qui à l'époque, bah, il devait être vachement jeune, hein, y a pas de problème, et Dieter Borsche et Marianne Hoppe. Sur RTL9, mardi toujours, à 20h45, Star Trek Generation, le film de David Carson, le lien entre les anciens et les nouveaux. Sympathique, on va dire. Malcolm McDowell qui cabotine, donc sympathique. Allez, D17 vous propose, toujours mardi prochain à 20h50, Implacable, un film suisse-allemand de Raoul Heimrich avec Gary Dourdan et Cosma Shiva Hagen, donc la fille de Nia.
D'accord.
Ben oui, Hagen. À 22h30, Double Illusion de Tibor Takács. Ah, ça sent la daube. 2009 avec Christian Slater et Cuba Gooding. Mardi toujours sur FX à 21h, 20th Century Boys de Yo-Yo Tsutsumi en 2008 avec Tashihashi Karasawa et Etsushi Toyokawa.
Adapté d'un manga
à le prononcer à l'aise.
Aiyasawa.
Oh putain.
Comment? Oui, bah je sais pas, j'ai pas noté quoi, c'est toi qui vas le dire.
Non, c'est pas
justement Aïtoua, dans mon esprit quand je note un truc comme ça, je me dis il va rebondir et me dire tiré du manga sorti chez Kana.
Non, je sais plus comment il s'appelle le mangaka de Café Monster. C'est Urasawa.
Urasawa.
Naoki Urasawa.
Ah, c'est le même.
Eh oui.
Ah bon, d'accord.
Et il l'a fait avant.
OK. Ah, il l'a fait avant Monster.
Ouais.
Oui. Ah bon, d'accord. OK.
Voilà.
Ah, merci. Mardi toujours. Et pour terminer sur Action 20h40, Sir, ceci est mon sang.
Ah bah tiens, ton film, Park Chan-wook. Le film préféré.
Ouais, moi j'aime bien. Film de vampire excellent, il y a pas de problème. Et puis là l'aspect l'antagonisme entre le vampirisme et la religion, tu vois, est bien évoqué
avec
dans ce
film. Avec un peu de sexe dedans.
C'est un curé qui devient vampire, tu vois. Enfin bon, l'histoire est j'aime bien quoi. Moi j'aime bien quoi, ce genre de truc quoi. Mercredi sur Arte, A Single Man à 20h50, film de Tom Ford avec Colin Firth et Julianne Moore, entre autres. Tom Ford qui, avant de faire du cinéma, était quand même le type qui avait complètement redressé la maison Gucci, vu que c'était le mec qui faisait toutes les collections et tout ça. NRJ 12, toujours mercredi prochain, vous propose à 20h50 Sniper 2 de Craig Baxley, Tom Béranger et Bookham Woodbine, suivi à 22h30 de Transmorphers 2 de Scott Wheeler avec Bruce Boxleitner, Jennifer Rubin et Shane Van Dyke.
C'est une production de nos amis escrocs de la...
Ah, peut-être.
Ah, ouais, ah oui, non, mais...
C'est des robots aliens qui viennent sur Terre et qui viennent dégommer tout le monde, quoi.
Transmorphers. Un film de Michael May.
Voilà.
Non, c'est... Alors, c'est les... Mince, c'est Asylum, si je me trompe. Je crois que c'est...
Ah, peut-être. Ouais. En tout cas, je peux vous dire que Shane Van Dyke, c'est le neveu de Stacy Van Dyke, qui est la nièce de Jerry Van Dyke, qui est le frère de Dick Van Dyke. Ah, tu connais pas Dick Van Dyke. Ok, bon, d'accord.
Ouais, il est produit en usine.
Sur Syfy, toujours mercredi, Fire Serpent de John Terlersky avec Nicolas Brandon. Buffy.
Oui, Nicolas Buffy. Brandon, c'est Alex. Ouais.
Non, Axel, le, Alex.
Oui, Alex.
Alex, ouais. Voilà.
C'est le puceau. Et
Sandrine Holt, que tu connais également. Hein. Alors, sa série la plus récente, celle dans laquelle on peut la voir en ce moment, c'est House of Cards. Elle a joué dans Hellworld, elle a joué dans 24 heures le cinquième jour. Et elle a également joué dans la série et dans le téléfilm original, Les Repentis.
C'est elle, la nana.
Voilà, parce que son nom, elle est née à Londres, mais son vrai nom, c'est Sandrine Ho. Donc tu devineras un petit peu la filiation asiatique.
D'accord.
Ok. Ça c'est mercredi, donc Fire Serpent sur Syfy, toujours mercredi sur TCM, Big Jake de George Sherman en 71, avec John Wayne, Maureen O'Hara et Richard Boone, que des vieux. Tu prends que des vieux et que tu fais un western. Parce que George Sherman, il a commencé sa carrière par faire des westerns. Il a fait pratiquement que ça. Et il en a fait quelques avec John Wayne, Maureen O'Hara, bien sûr. Et donc là, bah, il les reprend en 71. Et puis on fait la même chose. Et puis ça donne un western relativement trash quand même. Parce que bon, bah, c'est l'histoire de
Les Italiens sont passés.
ouais, les Italiens sont passés. Et bon, bah, c'est quand même l'histoire d'un type qui va rechercher son petit-fils qui a été enlevé par une bande. Et puis bon, il va reculer devant rien, quoi, pour essayer de la retrouver, quoi. De retrouver son petit-fils. Ça dépote un petit peu quand même. Sur FX, toujours mercredi à 21h, Les Chines du Diable de Guillermo del Toro, Eduardo de Noriega, Marisa Paredes, rien à dire. Polar vous propose à 21h Le Gang des Tueurs de John Bolting, le titre original Brighton Rock avec Richard Attenborough, qui à l'époque en 1947,
il n'avait pas encore ressuscité des dinosaures.
Non, mais à l'époque, bah, c'était un jeune premier, et donc à ses côtés, il y avait Carole Marsh.
Non, mais Xavier, il pouffe, il glousse, c'est John Hammond.
Non, mais tu as raison en plus.
Alors, Brighton Rock, c'est tiré d'un roman de Graham Greene, et John Bolting est le frère jumeau de Ray. Et alors bon,
c'est un spécial arbre généalogique aujourd'hui.
Ouais. Et en fait, ils ont toujours alterné dans leur boulot, quoi, au cinéma, quoi, producteur, réalisateur et tout, quoi. C'est-à-dire que bon, des fois c'est un qui signait l'autre, mais de toute façon, ils ont toujours fait tout à quatre mains, quoi. Surtout quelques films dans le début des années, dans les débuts des années 50, jusqu'à la fin des années 50, et dont un certain Après moi le déluge en 1959, qui a révélé veine comique, on va dire, qui a révélé un acteur qui allait devenir très célèbre plus tard, un certain Peter Sellers. Et ça c'est pour les frangins Bolting. Là c'est donc Le Gang des Tueurs, c'est sur Polar mercredi prochain à 21h au CH Géant. On vous propose également à 20h40, justement on en parlait, hein, Black Killer de Carlo Crocello avec Klaus Kinski et Fred Robsam. Jeudi, France 3 vous propose, ils ont tous les droits des films sur tous les films de Clint Eastwood, donc ils se gênent pas. On te fait des soirées Clint Eastwood. La prochaine, donc la semaine prochaine à 20h45, c'est Le Bon et la Brute et la Truand en entrée, version du director Scott, comme ils disent, version du réalisateur, c'est-à-dire Sergio Leone, suivi de à 0h10, donc parce que le film est quand même assez long, de L'Inspecteur ne renonce jamais, c'était le troisième.
Je sais plus.
De James Fargo en 76 avec Tyne Daly et John Mitchum. Sur D17, jeudi, toujours Highlander 3. Sur Sci-Fi.
Ça faisait longtemps.
Oh non, ça faisait
oui, justement, ça faisait vachement longtemps qu'il n'y avait pas eu un Highlander qui passait à la télé. Sur Sci-Fi à 20h45, Bigfoot de Bruce Davison en 2012 avec Danny Bonaduce et Barry Williams.
Williams. Écris mieux tes notes.
Mais surtout,
pas son numérique,
mais surtout dans la rubrique Faut bien manger, il y a également Sherilyn Fenn et Alice Cooper dans Bigfoot. Donc ça vaut peut-être son pesant de cacahuètes, rien que pour Alice Cooper. Je dis toujours sur Action, un excellent film à 20h40 qui s'appelle Flesh and Bone de Steve Kloves. En fait, c'est l'histoire de Dennis Quaid et de Meg Ryan qui en fait sont frères et sœurs, mais ils savent pas au début du film. Et donc, il est arrivé une histoire vachement horrible au début, mais c'est l'irruption du père au bout d'un moment qui va faire que ça va raviver des souvenirs et que ça va déclencher pas mal de trucs un petit peu désagréables. C'est un drame, quoi. C'est pas vraiment, c'est un film noir, c'est un drame. On peut appeler ça comme ça, mais c'est vachement bien foutu. Et le père, joué par James Caan, est absolument magnifique, excellent. C'est réalisé par Steve Kloves. Et il y a également Gwyneth Paltrow qui joue le rôle dedans d'une jeune délurée. Mais enfin bon, tu te demandes, quoi, parce que ce film est de 93. Donc, à l'époque, la nana n'était pas très connue. Tu te demandes, quoi. Bon, ok. Tu comprends après, quoi, les déconnades qu'elle fait dans Glee, par exemple, quand elle fait son rôle dans Glee, où elle déconne à fond les mallettes. Tu te dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, elle a déjà fait ça parce que après, on l'a vu dans des trucs vachement plus sérieux. Et Steve Kloves, quand même, il a fait deux films, à part celui-là. Il a fait également Suzy and the Baker Boys en 88. Par contre, c'est le scénariste des 8 Harry Potter au cinéma. Et c'est le scénariste de l'adaptation possible dans les limbes du Development Hell de Hollywood de Akira. Je savais que j'allais les faire hurler. Je le savais que j'allais les faire hurler. Voilà, donc ça c'est jeudi, hein, Flesh and Bone. Mais ce film est vraiment bien, hein, vraiment. Dennis Quaid, Meg Ryan, James Caan, Gwyneth Paltrow, excellent. Sur FX, toujours jeudi, La fiancée du vampire, mais c'est un film américain, là, hein, il date des années 70, 1970 de Dan Curtis, mais ça n'a rien à voir avec les films de la Hammer, déjà avec Jonathan Freed et Catherine Lee Scott. Sur OCS Max, on a Black Death, film anglais de Christopher Smith, qui nous avait déjà fait Severance en 2006 et Triangle en 2009. Et là, avec Eddie Redmayne, Carice Van Houten, Sean Bean, c'est un film qui raconte un film médiéval avec l'histoire de la peste noire, la Black Death, justement, quoi. Et puis bon, ça va dépoter à fond les mailles. Genre un petit peu état d'esprit, la fureur dans le sang, mais plus actuel, tu vois, avec plus de trash, quoi. Un petit peu, quoi. Vendredi sur Arte à 22h20, c'est la rediffusion de cette excellente série danoise, Borgen, dont la première saison est rediffusée donc vendredi à partir de 22h20. Alors 4 épisodes là, donc ça va vous faire jusqu'à 2h15 du matin. Mais bon, il y a
non, je crois que TMC fait le record au même moment puisqu'il passe AB, je sais plus quoi là, la série anglaise à succès.
Downton
Abbey, ouais. Ils ont passé hier 6 épisodes.
Ah bah tu vois.
6, ça fait 3h du matin.
Ensuite, quasiment. Toujours vendredi, sur RTL9 à 20h40, Zathura, une aventure spatiale avec Josh Hutcherson, Jonah Bobo et Kristen Stewart et Tim Robbins. Alors c'est un film rigolo parce que je suis tombé dessus par hasard et puis je me suis dit tiens je vais regarder. Réalisé par Jon Favreau en 2005. Jon Favreau, un mec qui nous a fait tous les Iron Man et tout ça.
Ah, les deux premiers surtout.
Ouais, ouais. Et il s'essayait encore un petit peu, on va dire. Et c'est un petit peu le même principe que Jumanji. T'imagines Jumanji, t'as vu Jumanji ?
Ouais.
Il n'y a pas de problème. Sauf que là, c'est pas mal. C'est un film sympathique pour les gosses qui fonctionne. Ça se laisse regarder aisément, quoi. Donc voilà, avec Sacha, y a pas de problème.
D'accord.
Sur Sci-Fi, toujours vendredi prochain à 20h45, et La Terre s'arrêta, de Chris Thomas Howell, avec Chris Thomas Howell également dedans, hein, c'est normal, faut bien manger. Et également Sinéad McCafferty, si elle n'est pas irlandaise, je meurs. Et Darren Dalton, de La Bande des Quatre.
C'est pas un film anglais de 1960, un truc comme ça?
Non, de 2008.
Oh putain, non, oui, non, rien à voir avec autre chose.
Mais ça n'a rien à voir, c'est une espèce
on
de.
On a raté DTV. On a raté une vanne du sport, il a dit de Darren Dalton de La Bande des Quatre.
Et ouais, parce qu'il y a également Timothy, il y a Dalton Trumbo et Fred Dalton Thompson.
Oh, putain, j'arrive même plus à les tilter là, je suis que.
Il faut chercher quand même. Mais bon, vous pouvez vous passer peut-être de ce Et la Terre s'arrêta, mais par contre, à 22h20, l'attaque des requins à deux têtes, du requin à deux têtes de Christopher Rey. Ne loupez ça avec Carmen Electra, Charlie O'Connell. Thomas, tout de suite, ça lui parle, ouais. Carmen Electra.
C'est où, c'est quand?
C'est sur Sci-Fi, vendredi prochain, 22h20. Et Brooke Hogan.
Pour ceux qui ne tiltent pas, Carmen Electra a joué dans Baywatch.
Non, mais tu nous prends pour des nazes ou quoi?
Je sais pas.
Pourquoi hein, stade.
Il a fini, l'enfoiré.
Ah ben non, attends.
C'est bon.
Non, stop, trop tard.
Je crois que c'est la plus longue chronique TV jamais faite dans cette émission.
Trop tard.
En plus, il faisait
bon, d'accord, allez, ok.
Oh non.
Non, mais c'est bon, c'est
mais
bon.
Mais l'encourage pas non plus.
Non, mais c'est bon.
D'accord.
Bon, eh ben dans ce cas-là...
Laisse le temps d'aller pisser un coup.
Ma foi, ce fut une émission. Oula, ouais,
on a débordé.
Oui,
ouais.
Il est 13h56 et je sens qu'on va se faire défoncer par le producteur l'émission suivante si on déborde. Qui est du sport. Thomas, s'il te plaît, ceux qui sont arrivés en cours de route ont peut-être manqué quelque chose. Mais ma foi, qu'est-ce qui s'est passé dans l'émission numéro 358 ?
Eh ben ouais, on avait dans cette émission un connard, un visiteur et des super-héros, de l'occulte et des vampires, des bidonvilles, des Siaos, des toisons, rien à voir sans transition, une Brigitte et une Clara Morgan, une choucroute, du JCVD, du western teuton, du western avec que des vieux, du western avec des indiens morts, de la vanne cachée et des requins à deux têtes.
Oh là là, mais vous auriez manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, grâce au podcast, grâce à l'enregistrement et sûrement pas parce qu'il n'y a pas de rediff sur Radio Éphémère, grâce aux rediffusions, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites, laissez vos commentaires, posez vos questions. N'hésitez pas, pour cela c'est très simple, il suffit d'aller sur internet et de chercher supplémentweekend.fr. Sans accent ni tiré, c'est le nom de domaine, supplémentweekend.fr.
Il faut pas aller sur internet pour chercher supplémentweekend.fr, il faut aller dans la barre de navigation et taper supplémentweekend.fr.
Pas d'accent, pas de tiré, et puis voilà, vous tombez dessus et il y a 5 E, 1 M, 1 W, 1 K, enfin voilà, vous êtes grand, non? Et 2 P.
Et n'oubliez pas notre présence sur les réseaux sociaux pour réagir, sur Google+, Facebook, Twitter, nous sommes partout. J'ai cité 3 marques.
Non, c'est bien, là ça passe. Vous écoutez FMR sur 89,1 mégacycle en modulation de fréquence. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM sur cette fréquence et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, ma foi, je crois que on a un artbook au moins.
On reparlera de Pirates et de Christophe Gans.
On aura le débrief du festival du cinéma de Guindou dans la radio.
Non, Guindou, c'est
Guindou, pardon, je sais quoi, oui, voilà. Et ma foi, et ben plein d'autres choses, on verra. Et je pense, t'es pas là, toi. T'es en week-end la semaine prochaine.
Oui, en week-end prolongé, on va dire.
Oui, enfin voilà. Vous nous avez compris. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Merci de votre écoute. Merci de nous faire ce plaisir. Et merci en tout cas de nous donner envie de continuer. Ciao, bye bye. C'était le Super Weekend numéro 358. Ciao, plus. Et d'ici quelques instants, du sport.